À mes très chers et mes respectés, les gros des gros chefs, les gros calacas de la grande association de l'homme européen, association de bienfaisance à caractère spirituel, association dont le président fondateur Papa Guy, mille fois c'est quoi beau, mis seul à l'inala vaké écolo, moutoua kouang à l'homme de kibousiba, salavale mbatalavale mbo, mon gabio, vouibio, recevez mes salutations les meilleures, mes salutations cordiales, mes vives salutations, mes salutations les plus distinguées, mes salutations fraternelles, mes papas, mes mamans, mes jeunes de vie enfants du monde entier. Que l'Éternel nous bénisse tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 4 mars 2017. Il est 18h53, heure de Paris. Nous allons répondre à quelques questions concernant la Première Nation. Concernant le Christ et le grand maître de l'EPH, concernant le mariage du Christ avec Marie-Madeleine, n'est-ce pas? Concernant la petite corne de Daniel et la marque de la bête. Voyez-vous qu'il y a plusieurs questions. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions-là selon Guy Émile. Loufoy, c'est quoi? Selon la prédication, selon Guy-Émile Loufoy, c'est quoi beau? Mais avant tout ça, nous allons quand même rappeler la grande fête de Pâques que nous allons célébrer dans presque 40 jours, vous voyez. Hein, nous allons reparler de tout ça pour remettre les choses, toutes choses à leur place. Et ensuite, nous allons répondre aux questions. Et à la dernière question, je répondrai aussi en langue, en Mulukutuba, éventuellement, et peut-être aussi en Lingala, si Dieu le veut. Mais avant tout, nous allons demander à notre Dieu et Père au plus haut des cieux de nous orienter, de nous canaliser, de nous diriger, de nous soutenir tout au long de cette prédication par son esprit. Que l'Éternel tourne sa face vers nous, nous accorde la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit, la rémission de nos péchés et la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Prions. Luti wil meko balabani, luti wil meko balabani, ndembe iswe sakalele, ndembe iswe. Sakalele luti wil meko balabani, luti wil meko balabani. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. Ô Seigneur, là où tu le veux, la vie est prolongée, le malade se rétablit, le péché s'efface. Je t'invoque, ô Seigneur, afin que tu me regardes à mon tour. Accueille mon espoir, prononce ma délivrance. Afin que mon corps affligé de mort reprenne la santé, que mon cœur meurtri par des épreuves et des chagrins se gonfle d'un nouveau rayonnement. Je suis attentif à tes actes et à tes commandements. Ô mon Dieu, je t'invoque avec amour, pardonne mes erreurs et mes fautes, exauce ma prière. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Luti wil meko balabani, luti wil meko balabani, ndeme iswe sakazonzo, ndeme iswe sakazonzo, luti wil meko balabani, luti wil meko balabani. De mei sue sacafondo so, de mei sue sacafondo so, luti wi meko balabani, luti wi meko balabani. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. Prions. Ô Dieu trois fois saint au plus haut des cieux, le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles, Alpha et l'Oméga, le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, le Dieu de la justice, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, ô Dieu, notre Père. Donne-nous notre pain substantiel maintenant, ô Dieu, car le pain substantiel, c'est notre force en ce moment où nos organismes ont été affaiblis affaibli par le péché, affaibli par l'alimentation, affaibli par toutes sortes de pressions, oh Dieu, que nous subissons de la part de l'ennemi qui veut nous détruire et nous imposer sa marque. Oh Dieu, car il sait qu'une humanité affaiblie ne pourra pas rejeter sa marque. Une humanité affaiblie se livre à l'abattoir. Une humanité affamée se livre facilement à l'abattoir, se livre facilement à Satan. Il le sait. Oh Dieu, voilà pourquoi il nous persécute moralement. Et la persécution physique est la persécution la plus horrible, oh Dieu, qui n'ait jamais existé. Va et donc apparaître. Et, oh Dieu, terrasser, piétiner, assassiner, faire disparaître les chrétiens et ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Oh Père trois fois saint, nous avons besoin de ton pain, le véritable pain, celui qui descend du ciel pour résister, oh Dieu, pendant ces jours de carnage que nous prépare l'ennemi de l'âme. Nous avons besoin de ce pain pour nous relever, pour dire non à Satan, pour repousser les forces du mal et sauver l'humanité souffrante pendant ce moment. Oh Dieu, car ton pain, oh Dieu, nous fortifie dans l'âme, dans l'esprit et dans la chair. Oh Dieu, ton pain substantiel nous donne, oh Dieu, le pouvoir sur le mal. Car c'est de la nourriture de l'esprit. Oui, cette nourriture nourrit le corps, l'âme et l'esprit en même temps, oh Dieu, et donne le pouvoir à l'armée céleste, à l'armée mariale sur terre de marcher vers la victoire. Ton pain substantiel, c'est ta parole, oh Dieu. Sans ta parole, nous n'arriverons point, car ta parole est un feu dévorant. Seule ta parole mettra en déroute les ennemis de l'âme. Car la parole, c'est toi-même. Oh Dieu, toi, tu es la parole. Tu es la vérité. Tu es le chemin. Tu es la vie éternelle. Notre pain substantiel, c'est ta parole. Celle qui sort de ta bouche. Car l'homme ne se nourrit pas seulement du pain de ce monde, de la nourriture de ce monde, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, nous avons besoin de cette parole pour être affermis, pour être prêts, pour marcher devant les forces qui veulent nous assujettir. Oh, Dieu notre Père céleste, viens habiter parmi nous, viens habiter dans nos cœurs, oh Dieu, pendant ces moments très difficiles, afin que nous puissions vaincre, oh Dieu. Le combat est rude, mais le Christ a déjà vaincu ce combat, humilié, oh Dieu, mais il est arrivé, il a vaincu, il a réduit la force de la mort, il a détruit la puissance de la mort. Oh la mort, où est ton aiguillon? Oh la mort, où est ta puissance, où est ton pouvoir? Car le Christ a vaincu, mort ressuscité pour l'humanité tout entière. Et c'est notre chemin aussi, le chemin de la croix, celui que nous allons prendre pour aller vers la victoire, malgré les humiliations que nous subissons. Mais nous connaissons l'issue. C'est que Satan sera vaincu à jamais et jeté dans le feu qui ne s'éteint point. Vanité de vanité. Vanité de vanité, à quoi ont servi toutes ces entreprises? Toutes ces guerres inutiles contre Dieu servent à quoi, si la finalité c'est le feu de l'enfer? Oh, pauvre créature qui se prend pour Dieu, pauvre créature qui veut renverser Dieu et renverser son épouse, l'Église, pauvre créature, car il connaîtra la honte et l'amertume. Dieu est Dieu, et on ne blague pas tout le temps avec son peuple, et on ne blague pas tout le temps avec sa gloire, son honneur, son titre. Il est Dieu, il est, restera Dieu de l'éternité en éternité. Vive l'Éternel, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Luti wil meko balabani. Luti wil meko balabani. Demei swe sakalele. Demei swe sakazonzo. Luti wil meko balabani. Luti wil meko balabani. Ndemei swe sakalele, ndemei swe sakazonzo. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Luti wil meko balabani. Luti wil meko balabani. Ndeme bale salanyongo. Ndeme bale salanyongo. Luti wil meko balabani. Luti wil meko balabani. Ndeme bale salafuta. Ndeme bale salafuta. Luti wil meko balabani. Luti wil meko balabani. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Eh bien, la chanson ici veut dire, que nous avons chanté tout au long de la prière, « Pourquoi vous ne m'écoutez pas, mes enfants ? Pourquoi ne m'écoutez-vous pas, mes enfants ?» Un jour, le Christ en parlera. Un jour, le Christ jugera. Un jour, le Christ va statuer, va dire son dernier mot. Vous ne m'écoutez pas. Mais un jour, vous allez le payer. Et un jour, vous allez regretter tout le mal que vous avez fait. Ou tout le temps que vous avez perdu. Mais dans les confusions, n'est-ce pas ? Et en détournant les vérités divines de l'heure, en semant la confusion au milieu du peuple de Dieu, en disant ce que je n'ai pas dit, eh bien, vous finirez par payer, car le Christ, qui est celui qui m'a remis la mission, parlera. Il finira par parler, parce que c'est lui le juge, donc tous nous allons passer devant lui. Et ce jour-là, les enfants, vous allez regretter. Et ce jour-là, les enfants, vous allez le payer. Demei soe sakafu. Un jour, il va juger. Oui, hein? C'était ça la chanson de la prière pour des frères et sœurs qui ne sont pas congolais ou qui ne comprennent pas ce dialecte-là. C'est en bembe, je crois. Hein? Bien. Alors, mes bien-aimés, alors vous avez posé plusieurs questions que j'ai résumées en cinq. Hein? J'ai mis ça en cinq parties ici. La première, c'est, vous avez posé beaucoup de questions sur la Première Nation. Je crois que je vais revenir un tant soit peu sur la Première Nation. Une question sur le Christ et le j'aime, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a trop de confusion là. Vous avez voulu que je puisse éclairer, le peuple de Dieu sur ce point. Et vous avez aussi parlé du mariage du Christ, que le Christ serait marié à Marie-Madeleine et qu'il aurait eu des enfants. Bon, je vais en parler aussi. Et vous avez voulu que je dise un peu plus sur la petite corne. Bon, je dirais un peu plus, mais pas beaucoup. parce que c'est des sujets très sensibles et il faut vraiment avoir du discernement, hein. Ça dit que c'est un enseignement ici des grands ici, voyez, et que bon, c'est pas tout le temps accessible à tout le monde. Donc je vais essayer d'en parler. Et puis à la fin, c'est la marque de la bête ici, hein. La marque de la bête, quoi. Vous avez aussi des questions concernant cette marque-là que nous allons aborder, mais je voudrais parler, hein, en langue ici. Je parlerai de la marque de la bête en français, n'est-ce pas? Ça sera en français, et puis je terminerai en langue pour que les frères et sœurs du Congo-Brazzaville, en général et en particulier de l'association Le Zolo Amour, comprennent ce qui se passe actuellement et où on va. Parce que, des fois, ils ont du mal à comprendre en français. Donc, en langue, je crois qu'ils comprendront plus parce que nous sommes le peuple en question, n'est-ce pas? Ce qui Dieu est venu. Donc, nous devons être informés. Il faut que les mamans soient au courant, n'est-ce pas? Et que par les mamans, les enfants soient au courant. Vous voyez, de ce qui arrive, n'est-ce pas? Il faut qu'on annonce, qu'on dise des choses à venir à nos mamans, afin que nos mamans se préparent et préparent les familles pour ce qui arrive, et qu'ils comprennent d'abord la situation actuelle que nous traversons, et que cette situation nous emmène vers quoi, voilà. Hein? C'est ça ce que je dirais à la fin, vous voyez? Mais avant tout, ici, nous allons parler un peu de la Pâque, ici, vous voyez, que nous sommes rentrés dans cette grande période-là, n'est-ce pas? C'est la période qu'on appelle la période du carême. Bon, ça n'existe certainement pas dans l'association Le Zolo Amour, le carême. Mais je vous ai dit que l'association Le Zolo Amour est la deuxième nation. C'est la suite, hein, n'est-ce pas? Hein? C'est ce qui vient après la première nation. Donc actuellement, nous sommes encore dans la première nation, n'est-ce pas? Je dis actuellement. Vous voyez que nous sommes encore sous le joug de la première nation. C'est la première nation qui continue, n'est-ce pas? Et elle s'arrêtera quand Dieu va décider que la première nation s'arrête. Et elle s'arrêtera pour donner place, mais à la deuxième nation. Donc pour l'instant, l'Église est aux mains de la première nation. Bien, nous allons en parler tout à l'heure, la première nation, vous voyez. C'est pour cela que notre calendrier des fêtes, par exemple la Pâque, ici nous allons la célébrer, mais à la même date que l'Église catholique, par exemple, ou l'Église, les églises chrétiennes, n'est-ce pas? C'est la même date, oui. La Noël aussi, nous la fêtons à la même date. La Pentecôte aussi, c'est la même date. Mais pourquoi nous sommes alignés? Vous vous êtes posé la question. Pourquoi sommes-nous alignés à ce calendrier-là? Et c'est parce que nous sommes encore sous le joug de la Première Nation. Voyez? Alors, je reviendrai sur cette Première Nation puisqu'il s'agit des questions quand je vais répondre aux questions. Ici, voyez-vous, frères et sœurs, la Pâque vient de quoi? Bon, lorsqu'on parle de la Pâque, les pasteurs, les prédicateurs, tout le monde fait allusion au peuple d'Israël dans le désert, au temps de Moïse. Vous voyez que ça, c'est une restriction, n'est-ce pas? Ça, c'est prendre les choses à mi-chemin, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on part à l'origine, vous voyez que la Pâque, mais à trait, oui, hein? La Pâque vient bien de l'origine d'Adam et Ève, oui, d'Adam et Ève, c'est les premiers à célébrer la Pâque. C'était peut-être pas une célébration, mais c'était un moment de douleur, n'est-ce pas? Oui, c'était un moment de douleur, de ce qu'on appelle du retranchement, oui, ici, hein. Donc, lorsqu'on parle de la Pâque est depuis l'origine. Voyez ici, comme je disais la dernière fois, on ne peut pas comprendre la Bible, mais sans comprendre la vie d'Adam et Ève, sans parler d'eux, sans rentrer dans leur vie, et même dans leur intimité, voyez ici, l'intimité d'Adam avec Dieu. Mais on ne peut rien comprendre sans ces deux personnes-là, parce que Dieu concentre ici tout son amour, mais en ces deux personnes. Ce sont ces deux personnes qui ont une mission extraordinaire, plénipotentiaire, je ne sais pas comment dire,
mais pour conduire l'humanité vers Dieu. Donc ils sont choisis, ils sont élus, n'est-ce pas? Et investis depuis le commencement. Donc c'est ça l'origine des choses. La Pâque vient de là, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le péché originel qui vient tout casser ici. C'est le péché originel, qui fait que le projet de Dieu est stoppé. L'humanité, au lieu d'être orientée vers Dieu, elle est orientée ailleurs ici. Vous voyez, l'humanité, au lieu d'aller vers la vie en abondance, la vie éternelle, l'humanité va vers la mort. C'est à cause du péché originel. Donc c'est une douleur ici qui rentre dans la vie d'Adam et Ève, qui étaient dans le jardin d'Éden, tranquille, n'est-ce pas? Servi par les anges. Oui, ici. Et qui se retrouvent à l'extérieur, hors du jardin d'Éden, à la merci des ennemis qui les ont fait chuter. Et ces ennemis-là, mais ont pris leur pouvoir, etc. Vous connaissez l'histoire. Vous voyez ici. Donc c'est une guerre de l'homme contre les esprits impurs dans le lieu céleste. C'est ce que rappelle Paul ici. Donc c'est une grande guerre entre l'espèce humaine, issue d'Adam, et les forces impures sur le lieu céleste, mais qui vont s'incarner aussi. Ils vont s'incarner, ils vont prendre aussi la chair. C'était ça leur objectif aussi. Prendre la chair humaine et venir sur la terre. Voyez-vous ici. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, nous avons ici mais deux sortes d'humanité. Une humanité adamique qui vient d'Adam, n'est-ce pas? Donc de Dieu. C'est cette humanité-là que Dieu veut sauver. Et une humanité... mais qui ne vient pas d'Adam, n'est-ce pas, ici? Mais des forces impures, en général, dans le lieu céleste. Donc il y en a deux ici. Ceux qu'on appelle tout simplement les enfants de Satan et les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont les adamiques. Et les enfants de Satan, ce sont les autres. Voyez-vous ici? C'est cette autre espèce, voyez-vous? Mais ils sont mélangés puisqu'ils portent aussi la chair humaine. Donc nous sommes tous mélangés. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on parle de la moisson, le maître de la moisson viendra séparer ceux d'Adam, il les mettra à côté, et c'est du serpent. Voyez-vous ici, il les mettra aussi de côté. Donc vous voyez, et la guerre elle est rude, et la douleur de l'humanité vient du fait que, nous avons au milieu de nous les forces impures dans le lieu céleste qui nous combattent à nuit et jour, n'est-ce pas, qui viennent qui veulent nous déposséder de l'héritage, notre héritage. Ils ont commencé cette entreprise-là depuis le jardin d'Éden. Lorsqu'ils ont fait tomber Adam, c'était pour ça, pour nous déposséder de notre héritage. N'est-ce pas? Et eux, ils savent, sachant qu'ils vont à la perdition, sachant qu'ils vont mourir éternellement, mais ils veulent aussi entraîner l'humanité vers la mort éternelle. Donc la mort éternelle, c'est leur situation définitive. Lorsqu'ils ont été chassés du ciel, Dieu a dit, c'est fini, n'est-ce pas? Votre fin, c'est le feu qui ne s'éteint point dans la souffrance. Donc ils le savent, eux, mais ils ne veulent pas y aller seuls. Ils veulent entraîner les adamiques. Donc, comme ils ont encore le temps d'exister, et ils savent aussi que leur temps pour exister sur cette terre dépend, n'est-ce pas, de leur influence, n'est-ce pas, sur les adamiques, parce qu'ils savent une chose, que les adamiques, ce sont les héritiers de Dieu. Hein? Les adamiques viennent de Dieu, puisque Dieu a voulu que l'humanité naisse d'Adam. Donc il a envoyé l'humanité par Adam. Donc les descendants d'Adam, ce sont les héritiers, ce sont les enfants de Dieu. Il le sent, hein? Il le sent, c'est écrit. C'est ça qu'on dit, ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Donc ce sont ceux qui viennent de Dieu et qui sont nés d'Adam. Mais malheureusement, ce n'est pas tous qui vont revenir à Dieu à la fin. Parce que les forces impures dans le lieu céleste vont corrompre le maximum d'adamiques. Qui vont prendre comme leurs esclaves, les utiliser. C'est ça que dans la Bible, on vous parle des traîtres. Les traîtres d'Israël, ce sont bien les adamiques, mais qui vont s'allier aux forces impures, à cette fausse humanité. Ils vont faire les œuvres de cette fausse humanité, Et à la fin, ils vont se retrouver, piégés. Parce qu'à la fin, ils se rendront compte qu'ils sont différents de cette humanité qu'ils servaient. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont méadamiques. Parce qu'à la fin, la vérité se verra. Alors là, ils chercheront à venir vers les adamiques. Mais ça ne sera pas possible, voyez-vous ici. Ils seront rejetés, maudits. Voyez-vous ici. Donc la lutte, c'est celle-là. La lutte, ce que Dieu fait actuellement, c'est parler aux adamiques. Que, ils sont appelés au salut. Ils ont le salut, n'est-ce pas? Et qui sont différents de ceux-là, mais qui viennent du serpent, vous voyez? Et qu'ils quittent, qu'ils sortent de ce milieu. Vous voyez, et il y en a qui ne le savent pas. Ils sont pris au piège depuis leur naissance, par des alliances signées par leurs aïeux, et par leurs ancêtres. Ils ont fait que il y a des générations qui sont sacrifiées, la génération adamique, des enfants d'Adam, mais qui se retrouvent dans le domaine satanique. Voyez-vous ici, c'est pas leur domaine. Donc il faut aller leur parler, il faut les faire sortir de là. Parce que c'est pas leur domaine. Voyez-vous? Donc il y a des adamiques qui sont prisonniers. Comme aujourd'hui. Nous sommes tous prisonniers d'un système qui est là. Mais le système, c'est le système satanique. C'est le système des forces impures dans le lieu céleste. C'est ce système-là qui nous assujettit. C'est ce système-là qui va aller jusqu'à, à nous imposer la marque de la bête que nous allons voir. Pourquoi ce système va-t-il nous imposer la marque de la bête? C'est tout simplement pour nous entraîner vers la mort éternelle, nous entraîner avec eux, parce qu'ils savent qu'ils s'en vont. Ils vont disparaître définitivement, ils vont dans le feu, ils veulent pas y aller seuls. Donc ils veulent entraîner les adamiques. Donc c'est ça leur combat. Le combat des forces du mal dans le lieu céleste, le combat de Satan, le combat aussi des humains, qui sont humains que de chair, à l'intérieur ils ne le sont pas, c'est d'entraîner les enfants d'Adam vers la seconde mort. Vous voyez, c'est la mort éternelle. Donc ne vous leurrez pas. Vous voyez, tout le système qui existe, la technologie, tout ça, tout ce que vous voyez, ça a un but. Le but, c'est entraîner les adamiques, mais à leur mort éternelle. Voilà comment le combat est rude. Donc vous voyez, frères et sœurs, si j'ai parlé de tout ça, c'est pour que nous puissions comprendre, nous, quel est notre véritable ennemi. Le véritable ennemi, ce sont ces forces impures. Puisque nous ne pouvons pas les voir à travers les humains qui se disent comme nous, mais nous les voyons, excusez-moi, à travers les œuvres du mal, n'est-ce pas? Notre vrai combat, c'est contre ces œuvres du mal que nous voyons, n'est-ce pas? Nous devons combattre ces esprits impurs dans les lieux célestes, par des moyens que Dieu nous a donnés, par la prière, par les bonnes œuvres, par la bonne prédication, par la défense inlassable des enseignements de Dieu, par le strict respect et l'observation des commandements de Dieu, par la sainte parole de Dieu, etc., par les moyens spirituels. Ce sont nos armes à nous, adamiques, pour vaincre les forces du mal, n'est-ce pas? Bien, donc je parlais de la Pâque ici, excusez-moi mes frères et sœurs, c'était une parenthèse. Vous voyez que la Pâque, ça vient de là, vous voyez? Ça vient déjà de quoi? Mais de ça, c'est Adam qui est dépossédé de son pouvoir, n'est-ce pas? Et de sa paternité ici, vous voyez? C'est Satan qui vient prendre en main l'humanité ici, c'est Satan qui vient prendre en main l'héritage d'Adam et de ses descendants, c'est-à-dire l'humanité. Et alors, Adam ici a compris la faute commise, l'erreur grave, le péché originel. Il l'a compris, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi il retourne à Dieu. Donc la Pâque, c'est un retour à Dieu, mais un retour dans la douleur, un retour dans la souffrance, un retour dans le renoncement. Donc Adam renonce ici au monde, à ses relations coupables, à ses coutumes. Vous voyez, il renonce à cela et il se met dans une situation de pénitence pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ça, la Pâque. C'est un deuil, hein? C'est un deuil ici d'Adam. Parce que ici, il est mort, n'est-ce pas? Il a été dépouillé. Il est sorti du jardin d'Éden. Il se retrouve à la merci des bêtes sauvages. Et même les animaux qui étaient soumis à lui ne lui obéissaient plus. Voyez-vous? Et le cosmos, toute la création était bouleversée. Voyez-vous? Ici, à cause de ce péché originel. Ce péché originel, mais a fait des dégâts ici énormes, n'est-ce pas? Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est ça qui pousse Adam à se retrancher, n'est-ce pas? Et à demander pardon. Voyez-vous ici? Donc, il y a quand même un pécheur. Quand Dieu y dit, il aime le pécheur, il hait le péché, mais c'est qu'il parle d'abord du premier. C'est le premier pécheur, Adam. C'est le premier pécheur, mais qui est revenu à Dieu, qui a lutté contre le péché jusqu'à sa mort. C'est ce que les gens ne disent pas. Les gens font disparaître Adam. Mais c'est pas possible, l'humanité ne peut pas vivre. L'humanité ne peut pas retrouver son humanité, si vous me permettez le terme, dans le vrai sens, hein, l'intégralité de son humanité, mais sans Adam. Ça, c'est faux, ça, ce que les gens racontent. Ah, Adam, il est mort pour toujours, il a trahi l'humanité. Et les gens adhèrent aux doctrines sataniques qui accusent Adam, qui piétinent Adam. Et pire encore, qui méprisent la femme. Pourquoi vous vous posez pas la question? Pourquoi la femme est-elle méprisée à ce point? Mais ce sont des doctrines sataniques. Hein? Je vous ai parlé de ça. Pourquoi? Hein? C'est par rapport à Ève. Mais c'est encore pire. C'est encore une abomination lorsque, eh ben, voyez, hein, dans une famille, il y a le père et la mère. Notre fierté à nous en tant qu'homme, en tant qu'enfant, c'est d'avoir un père et une mère. Oui. Et vous voyez, lorsqu'on touche à son père, on le dénigre, n'est-ce pas? On le réduit à je sais pas quoi. Et pire encore, à sa mère. La mère, c'est quand même celle par laquelle nous sommes sortis. Voyez. Vous voyez ce que ça fait? Mais ça joue sur nous, quoi. Parce que nous venons de ce père-là, de cette mère, quel que soit ce qu'il sent. Nous sommes quand même sortis d'eux. Nous sommes le fruit du père et de la mère. Et c'est la mère quand même qui nous a portés pendant 9 mois, oui, et qui nous a accouchés. Donc la mère, elle doit, quel que soit ce qu'elle est, c'est notre honneur, c'est notre vie. Voyez-vous ici? Et vous voyez, ça c'est seulement dans une famille. Mais imaginez ça à l'échelle mondiale. Quand on vient ici détruire Adam, et surtout Ève à la femme. Regardez ce qu'on fait de la femme, là. La femme, elle est nue, là, partout, là. Hein? La femme, elle est nue, la femme, elle est considérée comme un objet. Voyez-vous ici, la sexualité, quelque chose qui est sacré, hein? À l'origine. Sacré. Et aujourd'hui, regardez comment il s'est désacralisé. Comment est-ce que les gens se mettent facilement nus? Comment est-ce que les gens s'exhibent sur les réseaux sociaux? Tout ça. Mais qui est à l'œuvre? C'est Satan. Pourquoi il fait ça? L'humanité ne voit pas qu'elle est en train de s'auto-insulter, n'est-ce pas? Et entraînée par Satan, qui rigole, n'est-ce pas? Parce que Satan sait, mais que l'humanité, en faisant ce genre d'acte, mais il se réduit. L'humanité disparaît, n'est-ce pas? L'humanité perd son humanité, si vous me permettez. L'humanité est réduite à l'état de situation animale, bestiale, vous voyez? Et vous voyez que l'humanité perd du côté spirituel beaucoup plus. Parce que Satan sait que nous sommes spirituels. Les adamiques sont spirituels parce qu'ils viennent de Dieu. Mais en se livrant à ces actes abominables, cette sexualité effrénée, vous voyez que l'humanité est en train de mourir spirituellement. L'esprit s'en va complètement. Et ça devient que de la chair. C'est ce qu'ils sentent, eux. Vous voyez les descendants de Satan. Ils sentent que des êtres charnels. Il n'y a rien à l'intérieur. Oui. Mais ils veulent que les adamiques deviennent comme eux. Et les adamiques se rendront compte qu'à la fin, qu'ils ne sont pas comme les autres. Parce que nous nous verrons tels que nous sommes. Et à ce moment-là, ils chercheront à venir vers les autres. Mais les portes leur seront fermées. Et ils vont regretter de l'éternité en éternité. eux qui avaient leur nom inscrit dans le livre de vie. Bref, encore une parenthèse, frères et sœurs, voyez ici. Donc Adam ici voit l'humanité qui va venir de lui. Mais être sous le joug, mais de Satan, être dépossédé de son héritage, mourir. Et surtout, Adam là, qui était constamment en la présence de Dieu, ne voit plus Dieu. Dieu est éloigné. Il entend de loin ce Dieu qui était proche de lui. C'est de la misère, voyez ici. Et Adam veut rejeter le corps, veut rejeter la chair. Adam veut revenir dans le sein du Père comme il était au commencement. Il était dans le sein du Père avant, mais d'être introduit dans un corps de chair. Et Adam veut refuser ce corps-là. Il veut le livrer pour s'en sortir. Dieu, je livre mon corps. Je le livre, je me fais violence. Et voilà ce qu'on appelle mardi gras. Ils appellent ça mardi gras dans leur tradition païenne. Ils appellent ça mardi gras. Mais ce mardi-là, qui rappelle la deuxième journée de la création, Zulu. Zulu. Zol est quoi? Deux. Ce mardi-là, Adam pense à ses origines, n'est-ce pas? Céleste. C'est là où il se rend compte qu'il est céleste. Et la condition dans laquelle il est ne lui plaît pas. Voyez ici, qu'il est réduit à l'état animal. Et les animaux ne le respectent plus. Et la nature, tout devient dur. Comme le Seigneur avait dit, que la terre, voyez, ça sera très dur pour toi. Tu mangeras la sueur de ton front. C'est ici. Voyez-vous, c'est ici que Adam se rend compte que, mais dans l'état d'homme, homme, sans Dieu, c'est dur, c'est difficile. Non, je préfère repartir dans ton sein, Seigneur. D'où je viens? Je refuse ce corps. Et donc, c'est ce mardi-là qu'il a pensé, n'est-ce pas, à ses origines célestes. Et le mercredi, qui est le troisième jour, ils appellent ça mercredi des cendres. Ici, c'est Adam qui regrette le fait d'être lié à la terre. Oui, c'est. Donc, mardi, il pense à ses origines célestes. Zulu, C'est le deuxième jour, c'est le ciel, symboliquement. Troisième jour, c'est la terre. Et c'est là où, vraiment, il voit la mort, n'est-ce pas? Du fait qu'il est lié à la terre. Et Dieu lui a dit, tu es tiré de la terre, tu retourneras à la terre. Et c'est là où il mettra des cendres sur sa tête. Donc ici, c'est un deuil. Il dit, c'est fini pour moi, je suis foutu. Mais je vais implorer Dieu. Je ne sortirai pas de cet état tant que Dieu, le Dieu qui venait me voir, ne me répond pas. Et voilà, Adam s'est mis dans cette situation pendant 40 jours et 40 nuits. Vous voyez que au 40e jour, c'est Dieu qui lui envoie l'ange pour venir le sortir de cette situation et pour lui annoncer sa réhabilitation future. Il dit, je viens de la part de Dieu te dire que tu seras réhabilité et que tu reviendras dans le jardin d'Éden et que Dieu effacera tous tes péchés. Mais il viendra lui-même payer, n'est-ce pas? Donc il a vu ce que tu as fait, mais comme tu as péché, tu dois quand même mourir, n'est-ce pas? Mais Dieu viendra finir ce que tu as commencé, n'est-ce pas? Et il viendra donner lui son corps en sacrifice par rapport à ce que tu as fait, Dieu a vu. Et cet ange-là l'a baptisé. Le baptême d'eau vient de là. Et cet ange-là, on l'appelait comment? L'ange de la paix. Je vous en ai parlé la dernière fois. C'est ce fameux esprit de vérité. Je le répète plusieurs fois, mais j'ai l'impression que les frères et sœurs ne comprennent pas. L'esprit de vérité, c'est un ange. Oui. L'esprit de vérité, c'est un ange particulier. C'est l'ange de l'Éternel. C'est celui qui est une alliance entre l'Éternel et l'homme Adam. Donc une alliance entre l'Éternel et les hommes. Donc c'est celui-là qui l'a envoyé. C'est celui-là qu'on appelle l'ange de l'Éternel dans la Bible, des fois. Et il prend plusieurs fonctions, ici. Mais vous voyez, c'est celui-là que Dieu nous envoie en attendant sa venue. Donc Dieu, avant de venir s'incarner, il a envoyé cet ange-là, Adam. Pour dire à Adam, mais ça y est, c'est fini. Voilà, Dieu t'a. Et puis, baptême, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est venu rentrer en Adam en attendant sans retour. Donc Adam était assisté par l'Esprit de Dieu maintenant. Donc avec, il entretenait des relations avec Dieu par son esprit qui était en lui. Donc c'était une consolation pour lui. Voilà pourquoi on appelle cet ange-là l'ange de l'Esprit Saint. Donc c'est lui qui a emmené l'Esprit et qui l'a fait asseoir en Adam pour le consoler durant le reste de sa vie. Et donc, le 40e jour, c'était la victoire pour Adam, parce que Dieu a répondu, Dieu a vu. Donc la première personne qui s'est réconciliée, qui s'est repentie, mais c'est dans l'histoire de l'humanité, mais c'est Adam. D'où Dieu dit qu'il aime le pécheur et il hait le péché, parce qu'Adam a haï le péché jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Et à sa mort, c'est Dieu en personne qui est venu l'enterrer. Donc lorsqu'on parle de l'enterrement, là, mettre le corps sous la terre, c'est Dieu qui l'a fait pour Adam. Donc il faut que les frères et sœurs comprennent d'abord ces histoires-là. Oui, les vérités divines de l'heure viennent de là. Sans comprendre ça, c'est difficile que vous puissiez parler des vérités divines de l'heure. Hein? Donc vous voyez ici, alors lorsqu'on lit tout ça au calendrier actuel, et on nous parle de mardi gras. Donc, mardi gras. Vous voyez, ça, c'est dans les traditions païennes. Mardi, c'était le jour où Adam s'est souvenu de Dieu, de sa nature céleste, de ce qu'il était dans le jardin d'Éden. Il était céleste. Yah, mais moi, je suis réellement céleste. Et mardi et mercredi, c'est la terre, ça. Oh! Voilà. Parce que je suis lié à la terre que je souffre, tu vois. Comme je suis lié à la terre, j'ai pas le choix. Je retournerai à cette terre. Mais quand même, j'implore Dieu pour voir ma situation. Donc, ce corps-là, qui est lié à la terre, je l'abandonne, si je pouvais l'abandonner. Ou je le donne. Que Dieu me prenne et qu'il me remette où j'étais. C'est ça. C'est ça, ouais, le mercredi de cendre. Donc, on commence à compter les 40 jours depuis le mercredi de cendre. Ce mois-ci, le mercredi de cendre, c'était le 1er. Mars, si vous comptez 40 jours, vous tombez au rameau. Et vous comprenez, c'est quoi la fête des rameaux? Voyez-vous, c'est Jésus qui entre triomphalement où? Ben, Jérusalem. Ça représente quoi, Jérusalem? Nous ferons tout ça par la suite, sinon ça va être un peu trop lourd. Vous voyez que l'acte final, c'est entrer dans le temple. Et on fait quoi dans le temple? Ah, ici. Ça représente quoi, ce temple-là? Et qu'est-ce que le Christ fait dedans? Signe particulier. Lorsque le Christ rentre à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Il est sur quoi? Sur l'âne, le petit d'Udanès. Ça représente quoi l'âne? Et l'âne, etc. Ces symboles-là. Et qu'est-ce que les gens étalent sur le chemin? Mais des habits, des pagnes pour qu'ils passent. Et ils avaient quoi entre les mains? Ah, oh, les palmes. Alors les palmes, ça trahit tout simplement Adam. C'est le totem d'Adam, les palmes. Mais non, on nous parle des rameaux. Bon, rameaux, c'est une façon de... Hein? Excusez-moi. C'est une façon de parler, hein, des gens... Enfin, oui, hein? Nous sommes encore la première nation, on parle des rameaux. C'est pas rameaux, c'est les palmiers. Hein? Parce que les palmiers, c'est... C'est le palmier ici, c'est un arbre particulier que vous trouvez que dans les régions chaudes. Vous voyez que les gens se trahiront s'ils laissaient ces mots-là. Hein, si dans la Bible, chaque mot était... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Hein, on dit que c'est les rameaux. Bon, on considère ça comme ça. Mais je vous donne la vérité aujourd'hui, c'est les palmiers. C'est la fête des palmier, fête de palmier, oui. Palmier, c'est le totem d'Adam. C'est ce palmier, c'est son symbole, c'est son signe, je sais pas comment dire. C'est son truc, palmier, hein. Donc, les palmes que les enfants d'Israël avaient, qu'ils faisaient sur Jésus, mais ça rappelle qui? Mais Adam! Donc, voilà le Christ qui marche à la suite d'Adam. Et ce Christ-là est qui? C'est la question que vous avez posée, nous allons répondre tout à l'heure. Donc vous voyez ici, lorsque le Christ reprend aussi ses 40 jours et 40 nuits ici, d'abondant,
sa tentation ici, eh ben, c'est une grande œuvre. Le Christ marchait au pas, à la suite d'Adam. Le Christ faire ce que Adam a fait, afin de relever le corps humain. Vous voyez que le Christ vient donner la suite. Il vient nous rappeler cette histoire d'Adam, de les 40 jours et 40 nuits que Adam a passé, mais il était tellement affaibli, il était homme, il ne pouvait pas se racheter. Donc le Christ vient nous rappeler cette histoire. Voilà les 40 jours et 40 nuits, n'est-ce pas? Et la Pâque ici n'est que la continuité de ça. Donc c'est lui qui vient en tant que Dieu, et il donne finalement ce corps-là, ce que Adam voulait donner à Dieu, pour se faire racheter, et pour racheter les enfants qui vont venir de lui. Il ne pouvait pas racheter l'humanité. C'est ici, c'est pour ça que Dieu le fait. Vous voyez ici, et Dieu l'a fait le septième jour. Donc Adam est resté six dimanches, oui. Dimanche, c'est des jours sacrés. Donc, il est resté six dimanches dans la pénitence. Et Dieu est venu le septième dimanche pour accomplir. Hein? Donc, c'est, voilà, vous allez voir ça comme ceci. Voyez, si vous comptez depuis le mercredi des cendres, depuis le 1er mars, vous voyez que le premier dimanche, ça tombe demain, là, le 5. Vous voyez? Donc vous faites premier dimanche, c'est le 5. Deuxième, ça sera le 12. Troisième, ça sera le 19. Quatrième, ça sera le 26. Cinquième, ça sera, je crois, le 2. Et sixième, le 9. Vous voyez? Donc le 9, c'est les rameaux. Donc c'est six jours. Vraiment, c'est une victoire pour Adam. Et c'est une victoire que Dieu vient lui-même entériner. Dieu vient lui-même conclure par le septième dimanche. Voilà pourquoi entre les rameaux et la Pâque, il y a sept jours. Donc le septième dimanche, c'est la Pâque en question. Donc c'est le Christ qui vient accomplir, n'est-ce pas? Qui vient donner ce corps-là pour le reprendre efficacement. Voilà un peu l'histoire de la Pâque. D'où la Pâque vient, n'est-ce pas? Donc lorsqu'on vous pose des questions sur la Pâque, et puis vous aussi, vous devez savoir toutes ces choses-là, frères et sœurs, n'est-ce pas? Donc il y a bien un lien, hein, avec Adam et Ève. Bon, le président fondateur, par rapport au palmier. Oui, il est né entre quoi? Combien de palmiers? Trois. Donc c'est son symbole, c'est son totem, les palmiers. C'est pas difficile de trouver qui est-il, hein? Encore une fois ici. Bon, l'évidence est devant vos yeux, hein. Si vous continuez à refuser, la vérité, c'est que vous n'êtes pas des adamiques, hein. Parce que parmi nous, il y en a qui ont la chair, hein. Comme toi et moi, là. Ah, frère, oh, comment tu vas? Mais lui, il est pas, c'est pas un humain. À l'intérieur de lui, c'est un démon incarné. Donc, il y en a plein, là, à Luzolo, hein. À Luzolo, il y a plein de démons qui sont incarnés. C'est ce que le maître dit à Luzolo, là. Sur 1000 luzolifiés, il y en a peut-être 100 ou 200 seulement qui sont des vrais luzolifiés. C'est-à-dire des descendants adamiques. Ceux qui viennent d'Adam, ils sont très peu à Luzolo. Mais foisonne les enfants de Satan. Les enfants de Satan, par définition, ce sont des humains seulement de chair à l'intérieur d'eux. Ils ne le sont pas. Mais ils viennent du serpent. C'est la semence du serpent. C'est la race de vipère. Ce sont eux qui foisonnent. Voilà pourquoi ils brillent par le mensonge. Voilà pourquoi ils détournent les vérités divines de l'heure. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir actuellement. Hein? Le pouvoir du monde est entre leurs mains. C'est ce qu'ils ont obtenu par le péché originel. Donc ils continueront ce service-là jusqu'à détourner la majorité. Voyez-vous que si les gens continuent à s'asseoir, à s'attarder sur le mensonge, quoique la vérité est là, elle est palpable, elle est devant eux, elle est tellement évidente. Si les gens ils continuent toujours à détourner cette vérité et à maintenir les autres dans le mensonge, c'est qu'ils ne sont pas d'Adam. Et vous devez les reconnaître. Comme disait le Christ, mes brebis connaissent ma voix.
Donc le maître connaît qui sont les siens. Mais qu'est-ce que vous voulez? Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes encore sous le joug de la première nation, sachant qu'elle était passée. Mais elle passera définitivement que. Mais lorsque le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, hein, lorsque ce qu'ils ont étouffé va leur sauter aux yeux, et ils ne pourront plus se cacher, lorsque le Christ se manifestera puissamment sous le plan mondial, comme ce roi qui vient dégager ceux qui ont pris l'héritage d'Adam et remettre Adam sur son fauteuil royal. C'est ça qu'on nous attendra, hein, frères et sœurs. Bien, là j'ai parlé de la Pâque et nous allons revenir sur la Pâque en vous parlant des rameaux, etc., des symboles que j'ai évoqués tout à l'heure, hein. Nous allons venir en profondeur, mais c'était tout simplement pour que les frères et sœurs comprennent d'où vient la Pâque. Et la Pâque, c'est lié à qui? Vous voyez que c'est à Adam, hein? C'est le péché originel, c'est Adam qui regrette, c'est Adam qui veut réparer, mais il n'est pas puissant, il n'est pas fort, il est tombé, il ne peut pas réparer. Il va quand même mourir. Et voilà pourquoi il pense à sa nature céleste. Il dit, ah, si j'étais resté céleste, j'allais pas souffrir comme ça. Mais voilà, c'est parce que je suis attaché à la terre. Et aujourd'hui, oui. Bon, voilà. Hein? Je suis attaché à la terre. Je donne ce corps-là à la terre en réparation. Peut-être que Dieu va m'écouter. Si je remets ce corps à la terre, peut-être que Dieu va me faire revenir là où j'étais. Hein? C'est une façon de renoncer. Il refuse ce corps de chair, n'est-ce pas? Et pour il veut le corps qu'il avait dans le jardin d'Éden. Il veut ce manteau de gloire-là. Il dit, ah là, là, c'est bon, ce corps-là, je peux pas. Avec ça, je suis incapable de servir Dieu. Non, mon Dieu, hein, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il est rentré en deuil, ici, pendant 40 jours et 40 nuits. C'était de la souffrance. Et Satan l'a beaucoup tenté, pendant ces 40 jours-là. Satan s'est même déguisé en ange, pour venir là. Satan a fait des trucs. Satan a joué la comédie, il a fait tout. Mais Adam est resté concentré pendant 40 jours et 40 nuits. Et c'est au bout des 40 jours et 40 nuits que l'ange de l'Éternel est venu le sortir de là. Vous voyez? Parce que Adam connaît bien Dieu. Adam connaît bien l'ange de l'Éternel. Puisqu'il partait chez Dieu, il revenait. N'est-ce pas? Donc Adam, c'est le seul connaisseur de toutes choses. Oui. C'est le seul qui a marché avec Dieu, tête à tête, qui a parlé avec Dieu. Et il est témoin de la création de beaucoup de choses. Et Dieu lui a montré. Donc il n'y a pas une autre créature. Vous avez beau dire ce que vous voulez, mais Dieu ne peut pas se séparer d'Adam, n'est-ce pas? La preuve, c'est que c'est ça. La Pâque, c'est Dieu qui vient la terminer. Lui-même, en personne, qui descend. Voyez ici. Bien. Donc je crois que là, j'ai beaucoup parlé de la Pâque. Hein? Et c'est pour nous aussi, les frères et sœurs, à la fin, hein, avant que je puisse clôturer ce chapitre, pour nous aussi, c'est le moment. Nous sommes en plein carême. C'est le renoncement. Nous devons renoncer au mal sur toutes ses formes, puisque le mal est lié à notre chair. C'est pour ça que nous renonçons au mal. C'est une façon de nous détacher de la mort, hein, de sortir de cette chair-là et d'être branché sur ce qui est spirituel, ce qu'a fait Adam. Pendant 40 jours et 40 nuits. Et vous voyez que c'est difficile parce que la chair est liée à la terre, n'est-ce pas? Et cette chair-là, en plus, elle est souillée et elle est contaminée par le péché. Donc Satan a une ouverture. Satan passe par cette chair-là, mais pour nous assujettir. Donc ici, lorsqu'on renonce à ce qui est charnel, mais on est beaucoup plus tenté. Parce qu'on pense à manger, on pense à se vêtir, on pense. Et à la fin, la bataille, mais on la perd facilement, n'est-ce pas? Donc vous voyez que c'est la période pendant laquelle Satan multiplie les tentations, n'est-ce pas? C'est la période la plus difficile. Et encore cette année, ça sera plus difficile parce que on entendra que des mauvaises nouvelles qui nous conduiront vers l'irréparable. Et sachez seulement qu'à la fin, nous triompherons parce que Le Christ a déjà vaincu cette période-ci. Le Christ a souffert à mi-temps pour ce qui vient, n'est-ce pas? C'est pour nous qu'il a fait, pour ce que nous allons vivre. Donc actuellement, si j'ai parlé de la Pâque, de la préparation, j'ai lié à Adam, c'est pour nous rappeler à nous tous le péché originel, nos péchés aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est le moment, mais de les abandonner. C'est le moment de se concentrer sur ce qui vient. Parce que ce qui vient est dur, est difficile. Nous pourrons vaincre que si nous sommes spirituels. Voilà la force d'Adam, il était spirituel. Et le Christ l'a montré que spirituellement il tenait, parce qu'il avait faim. C'est là où Satan vient. Ah, si tu es le fils de Dieu. Mais il l'a fait aussi à Adam. Mais Adam a vaincu jusqu'à au bout. Voilà pourquoi Dieu est venu en personne. C'est en souvenir de cette personne-là. Bien. Frères et sœurs, la première nation ici. Alors, les frères et sœurs disent, mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Vous nous dites que l'Église catholique, c'est la première nation, et encore la première nation. Bon, ça devient un peu compliqué. Oui, ça se complique tout simplement parce que nous ne faisons pas un effort. N'est-ce pas? De voir les choses spirituellement. Ou encore, nous ne sommes pas encore prêts dans les affaires de Dieu. Ou encore, nous ne sommes pas encore des porteurs de lumière. Parce que ces choses-là devaient être évidentes. Depuis que le Gème en parle. Le Gème en a parlé à la montagne, voyez-vous. Hein? Depuis 1988, ça fait longtemps. Hein? Calculez vous-même. Durant toutes ces années, nous n'avons pas encore compris. Et nous ne voulons même pas accepter ce que le maître dit. Le maître a bien dit que l'Église catholique romaine est la première nation. Il l'a dit. Hein? Il me l'a dit. Les frères et sœurs se demandent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais moi, je ne fais que répéter ce que mon maître a dit. Parce que je note. Hein? Et noter, ça ne suffit pas. Mais il faut vivre ces choses-là, hein? Spirituellement. Il faut que les frères et sœurs apprennent maintenant à rentrer dans les affaires de l'organisation PH et à comprendre qui... Parce que si vous ne connaissez pas le Dieu de l'organisation, enfin, le Dieu de l'association Les Olormos, si vous faites tout, continuez à faire des confusions là, hein, on va en parler tout à l'heure, mais vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous ne vous humiliez pas, hein, et commencez à comprendre pour écouter la parole de Dieu, pour écouter l'Esprit Saint, hein? Si vous ne vous humiliez pas, si vous ne sortez pas des dogmes, de vos alliances, de vos amitiés coupables, ça va vous passer à côté, hein, les affaires de Dieu. C'est ça l'origine des choses. C'est qu'il y a le mensonge, il y a la confusion. Et d'autres, je ne sais pas moi, ça bloque l'élévation spirituelle. Comment est-ce que votre maître vous dit, hein, que je ne suis pas Dieu? Et vous venez contredire. Vous trouvez même des preuves, hein? Vous fabriquez des preuves que le maître a dit qu'il est Dieu. Le maître dit, je ne suis pas Jésus. Mais vous venez, vous le dites, vous l'affirmez, vous écrivez, vous publiez. Vous faites même des vidéos, des machins, des prédications. Et vous partagez dans le monde entier. Vous trouvez cette attitude-là normale pour des gens qui se disent porteurs de lumière? Vous trouvez ça normal? Contredire un grand maître. Et en plus, il a pris les notes circulaires, il a écrit, vous avez contredit, vous avez fait des contre-notes circulaires pour déformer ce qu'il a dit. Vous trouvez ça normal déjà? Non, frères et sœurs. Je sais que c'est l'œuvre de ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Hein? C'est l'œuvre des enfants de Satan, qui sont majoritaires dans la société de l'amour. Mais enfin, les enfants d'Adam, les enfants de Dieu, mais que faites-vous? Vous adhérez à ces choses-là. Vous le multipliez. Et puis, vous vous contentez, hein, du minimum, du strict minimum. Et puis, vous êtes indifférent, quoi, hein? À la... Oui, je sais pas. À l'appel de l'esprit.
cette petite voix de l'esprit qui vous appelle. Non, c'est pas ça. Vous n'écoutez même pas. D'ailleurs, je ne sais pas si les frères et sœurs écoutent leur conscience. Hein. Ça, c'est... Si les frères et sœurs écoutaient leur conscience, ils allaient se rendre compte que l'esprit parle à travers cette conscience pour leur dire « Mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. » Et les gens viendront me dire « Ah oh là, l'association Luzolo Amour, c'est changer, changer. » Hier, le maître avait dit qu'il n'est pas Dieu, mais aujourd'hui, les choses ont changé et il est Dieu. Oh. Mais quelle est cette parole de Dieu qui change? Oui, l'organisation est changée, changée dans sa façon de conduire le peuple de Dieu. Mais l'organisation ne change pas sa parole, puisque la parole, c'est elle-même l'organisation. Pourquoi voulez-vous que la parole change? Non, la parole de Dieu, il est écrit, ne changera point. Elle ne passera point. Elle est telle. Et on ne peut pas négocier avec. Ni falsifier. Ni la varier. Ça, ce sont des paroles mielleuses. Ça, c'est pour vous faire sortir de la réalité, de la vérité. La vérité, elle ne change pas. Ce que dit Dieu a dit hier, c'est aujourd'hui, maintenant. Et demain, c'est la même chose. C'est sa parole. Dieu est constant. C'est un éternel présent. Si la parole de Dieu change, alors elle n'est pas la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Mais lisons la Bible, enfin. Si le maître commence à se contredire, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Et vous faites dire aux gens, vous montrez aux gens que Guy-Émile n'est pas de Dieu. Parce qu'il change ce qu'il dit. C'est qu'il n'est pas de Dieu. Voilà ce que vous faites, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Je ne crois pas. Parce que tout simplement, mais les gens ne sont pas assis sur la parole de Dieu. Mais il faut lire la Bible. Hein? Il faut connaître la Bible. Bon, je dis que ce n'est pas suffisant. Il faut aussi les vérités divines de l'heure. Mais les vérités divines de l'heure ont pour base, c'est la suite. C'est la suite de ce que nous connaissons. Mais c'est une suite de la parole. Donc, elle obéit, elle reste dans la même... C'est la parole de Dieu. Hier, il a parlé. C'est ce que nous avons dans la Bible. Aujourd'hui aussi, il parle à travers des messagers, etc. Tout ça, c'est ça, sa parole. Et il donne un plus à son peuple, ce qu'on appelle les vérités divines de l'heure, pour se montrer à son peuple. Qui est-il? Mais tout ça... Mais c'est basé sur la même chose. C'est la base, c'est quoi? Mais c'est Dieu en personne. La base, c'est quoi? Mais c'est les 10 commandements. La base, c'est quoi? C'est le Christ. C'est sa mission. Un point très. Et cette mission-là, elle est mondiale. Donc elle partira du Congo pour gagner le monde entier. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous dérange si un message vient du Brésil, de l'Angleterre, du machin? C'est que c'est Dieu qui parle. Et c'est ça la mission. La mission, c'est ça. C'est cette mission-là. Mais si les gens ils comprennent pas ça déjà, c'est difficile. Comment vous allez vous en sortir, frères et sœurs? Comment? C'est difficile que vous puissiez vous en sortir si vous ne comprenez pas ces choses-là. La première nation, c'est l'Église catholique, romaine, aujourd'hui. C'est la continuité de la première nation. C'est pas moi qui le dis. Hein? Encore une fois. Vous dites, ah, vous avez, tu as dit. Mais c'est pas moi. Qui l'a dit? Mais c'est le j'aime. Moi, je ne fais que répéter. Et expliquer. C'est ça la particularité. C'est ça la mission du serviteur d'un ennemi de données. C'est que j'explique pourquoi il l'a dit. Donc moi, je ne viens pas inventer les choses. Hein? C'est le maître qui le dit. Parce que l'Église catholique romaine est née des restes de la Première Nation. Je vous en ai parlé la dernière fois. Hein? Réécoutez la prédication relative à Joyeux de Papa. Tout simplement parce que au temps de Jésus, c'était les Romains qui colonisaient ce peuple-là, juif, vous voyez, et les Romains étaient là, représentés par Ponce Pilate, là, c'est qui? C'est un Romain, vous voyez, que le pouvoir politique, c'était
à Rome. Et le pouvoir spirituel, religieux, c'était les Juifs qui les avaient. Hérode, je sais pas qui, là. Oui. Mais vous avez vu que les enfants d'Israël, eux-mêmes, ont abandonné le Christ. Ils l'ont rejeté. Ce sont les prêtres, hein, les pharisiens, là, les pharisiens. C'était des Juifs, les pharisiens, là, hein. Ceux qui siégeaient dans le temple, là. Ceux qui perpétuaient, soi-disant, la religion de Moïse. Hein? Ceux qui se disaient de Moïse. Ceux qui ont mené la vie dure à Jésus. Qui a mené la vie dure à Jésus? C'est les enfants de la première nation. C'est les enfants d'Israël. Et qui encore? Qui? Mais ceux qui se disaient religieux. Les Sadducéens, les docteurs de la loi. Docteurs de la loi. Il est docteur de la loi, mais il n'a pas pu connaître le Christ. Il n'a pas su qu'il était fils de Dieu. Les pharisiens, tout ça, c'est eux qui lui menaient la guerre. Oui ou non? Oui. Mais cette première nation-là, c'est ça, c'est les pharisiens et tout, ceux qui siégeaient dans le temple. Les Romains, c'était un pouvoir politique, donc il y avait aussi un pouvoir religieux. Les deux étaient là, hein, au temps de Jésus. Et quand ceux le pouvoir religieux l'a abandonné, ils l'ont livré au pouvoir politique pour le crucifier et tout ça. Ils l'ont crucifié, les Romains, ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à un saint, hein, à un homme de Dieu. Ils ont pris qui? Le Christ. Qui a pris le Christ? Mais ce sont les Romains. Hein? Il y avait qui là à Jérusalem? Avant que le Christ soit connu dans le monde entier. Qui vivait en Jérusalem? Qui vivait là-bas? Mais on vous dit symboliquement. Les Romains. Et les enfants d'Israël. Dans les témoins de la mort du Christ, il n'y en a que deux. Vous ne pouvez pas chercher midi à 14h. Il y a deux là. Hein? Les deux témoins sont là. Okay. Il y a les Romains et le machin. Donc la religion chrétienne commence par qui? Bon, ça a commencé par les descendants d'Israël, parce que le Christ a été cherché, les disciples, au milieu de son peuple d'abord. Mais elle a voyagé comment? C'est-à-dire que la religion, elle est rentrée quand elle est sortie d'Israël. Hein? Voilà ce que je veux dire. Quand cette religion est sortie d'Israël, elle est rentrée où? Mais au milieu des Romains, tout simplement. Au milieu des Romains. Parce que ici, c'est les enfants d'Israël qui disent « Oh, prenez-le !» Ils l'ont livré aux Romains. Qui a livré Jésus aux Romains? C'est les enfants d'Israël. Et beaucoup plus, ce sont les religieux qui étaient là. « Ah, oh, il a dit qu'il est Dieu, crucifiez-le par rapport à la loi. » Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour de la crucifixion du Christ? Le voile du temple s'est déchiré en deux. Vous avez compris pourquoi le voile s'est déchiré en deux. C'était fini, la première nation. C'était fini, le temps des pharisiens. C'était fini tout ça. C'est qu'on est rentré dans une nouvelle alliance. La deuxième nation commence là. Mais attention, cette deuxième nation-là, elle ne peut venir que de la mort et de la résurrection du Christ. Donc on ne peut vous appeler deuxième nation que si vous êtes né de nouveau. Si vous êtes vraiment passé par cette mort et cette résurrection, si vous êtes mort et ressuscité avec le Christ, vous êtes de la deuxième nation. Donc la deuxième nation dépend du Christ. Mais d'après vous, elle est rentrée où d'abord? Ici. Bon, bref. Mais vous voyez que les restes de cette première nation, puisque les Romains ont compris qu'ah, vraiment, cette affaire-là est sérieuse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont pris les restes de cette première nation qu'ils ont emmenée à Rome. D'où est né Vatican? Vatican est né de ces restes-là. Et voilà que eux, ils ont perpétué les œuvres des pharisiens, des sadducéens, des docteurs de la loi. Aujourd'hui, c'est exactement ça qui est au Vatican. C'est exactement la première nation qui a rejeté le Christ. C'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est le rejet du Christ. Lorsqu'on élève le conducteur de l'Église au rang de Dieu, ce qu'est, par exemple, le pape, il est mis au même rang que Dieu, celui qui est capable de pardonner les péchés du monde, n'est-ce pas? Et ils ont introduit des choses que Dieu a tolérées pour l'instant. Parce que c'est la première nation, jusqu'à ce qu'ils comprennent que nous sommes passés à la deuxième. Voyez ici. C'est ça, c'est la première nation. Parce que, par rapport à la conversion, ils se sont convertis, eux. C'est une conversion à la religion, je sais pas, des juifs dans le temps. Hein? Et puis, bon, voilà, maquillé sur le Christ. Vous me comprenez? C'est ça, cette première nation. Vous voyez que la Bible parle de cette première nation comme étant la petite corne. Donc là, je réponds à la question, la petite corne. Vous voyez? Comme étant là, la petite corne. C'est quoi la petite corne de Daniel ici, vous voyez? C'est un pouvoir, mais qui ne viendra pas du Christ, mais de Satan. Donc, exactement ce qui se passait dans au temple. Voyez ce que le Christ a trouvé pendant les rameaux. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans le temple? Que les gens ne servaient pas Dieu. Ils faisaient quoi? Leur commerce, ils faisaient des choses. Qu'est-ce qui régnait? Quel esprit régnait dans le temple? C'est l'esprit ça, satanique. Mais ce temple-là représenté, c'était le temple de quoi? C'est la première nation. Oui, mais ce temple-là continue à notre temps actuel. Puisque le Christ dit, cette génération ne passera point avant que ces choses en arrivent. Cette génération, c'est celle-là qui était pendant que le Christ était là, mais qui va revenir. Donc vous verrez bien cette église-là. Mais renaître. Hein? Vous verrez bien, pas peut-être cette église, c'est la première nation renaître de ses cendres, n'est-ce pas? Vous voyez les œuvres de la première nation, on va venir, n'est-ce pas? Mais elle ne viendra pas d'ailleurs que chez les Romains. C'est eux qui étaient là, témoins, n'est-ce pas? Mais du crucifiement, crucifixion du Christ. Donc c'est eux qui ont pris ces affaires-là en main. Donc Vatican, c'est une copie de la première nation. Et vous connaissez dans l'histoire que le temple a été pillé en l'an 70. Par qui? Mais par les Romains. Donc c'est eux qui ont des reliques. C'est eux qui ont tout ça. C'est eux qui ont les livres. C'est eux qui ont tout, tout. Excusez-moi. Ils l'ont où? Au Vatican. Donc les choses qui étaient dans le temple au temps de Jésus, mais ça se trouve chez eux. Donc ils continuent cette première nation. Et si vous voyez comment est-ce que les gens se comportent, mais c'est exactement ce qui se passait au temps de Jésus. Donc cette première nation va exister, n'est-ce pas? Cette première nation qui a fait souffrir le Christ, qui l'a crucifié, va exister à la fin. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. C'est ce que ça veut dire. Avant d'être détruite, parce que Dieu l'a abandonnée. Et Dieu a opté pour une deuxième nation ici, qui est l'épouse en question. Vous voyez qu'il y a une différence. L'épouse. La nouvelle Jérusalem sur les cieux, etc. Toutes ces expressions. C'est une nouvelle nation. Mais voyez-vous qu'elle est céleste, la nation. Elle est céleste. Elle est étroitement liée au Christ. Donc sans le Christ, il n'y a pas la deuxième nation. Comprenez-moi bien, mes frères et sœurs. Et vous voyez les œuvres de la première nation à maquiller ses œuvres derrière le Christ. Et ce Christ-là, c'est vrai, qui a été blanchi. Et ce Christ qui a été déformé pour donner la place à un faux Christ. Le faux Christ qui vient, n'est-ce pas? Hein? Bon. Vous voyez, comme la première nation. Tant que le vaillant David était là, etc., etc., le temple était un lieu saint. Mais au temps de Jésus, puisqu'ils n'ont pas reconnu Jésus, qu'est-ce qu'était devenu le temple? Et ils ont fini par sacrifier qui? Qui a sacrifié Jésus? Mais c'est les gens, les docteurs de la loi, les pharisiens et tout. C'est les gens qui croyaient, qui disaient, qui priaient Dieu, non? Qu'est-ce qu'ils ont fini par faire? Allez, ils ne priaient pas Dieu. Ils croyaient qu'à leur business, à leur, je sais pas moi, hein? Mais Jésus-Christ les a combattus, enfin, peut-être pas combattre, hein? Mais il a beaucoup plus parlé de ces gens-là, n'est-ce pas?
race de vipères, comme disait Jean-Baptiste.
Voyez-vous. Mais c'est la même chose qui a été transférée à Rome. Vatican, ce n'est que ça. C'est les œuvres, parce que c'est eux qui étaient là, là, là. C'est chez eux que le Christ a été exilé. Donc c'est eux qui ont pris le Christ. Ils l'ont emmené à Rome, à Vatican. Et ils ont commencé, voilà. Hein? Et c'est ça qui existe. C'est cette religion-là. Oui, hein? Mais elle est venue après. Il y a d'abord eu la vraie religion catholique, n'est-ce pas? Celle qui est vraiment née du Christ. Hein? C'est celle qu'on appelle apostolique. Mais voyez-vous que au cours du temps, hein, ils ont fini par l'écraser. Regardez l'histoire, comment est-ce qu'ils ont brûlé, assassiné, torturé, persécuté les vrais chrétiens. Lisez quand même comment est-ce que l'Église a été créée, jusqu'à les faire taire et les faire rentrer dans une institution où ils vont être fermés définitivement et piétinés, n'est-ce pas? Et cette institution va se comporter comme se comportait la Première Nation. C'est ça, la Première Nation. Donc, vous retrouverez les œuvres de la Première Nation dans l'Église catholique romaine. Romaine, c'est précisé. Parce que c'est à Rome qu'on a implanté... toutes ces choses-là, hein? Oui, mais attention, vous m'avez dit aussi, pourquoi tu dis Première Nation par conversion? Mais oui, parce que c'est pas les concernés, la Première Nation, c'est pas eux. Eux, c'était le pouvoir colonisateur. C'était le pouvoir qui était là en place. Ils ont pris malgré eux, donc le Christ a été exilé en eux. Donc, ce sont des convertis au christianisme. Donc, ils ont pris cette affaire, ils ont emmené chez eux, et ils ont fait de cette affaire aujourd'hui une affaire qui a complètement dévié du vrai sens du christianisme. Mais vous voyez qu'à côté d'eux, il y a un reste. Donc, c'est ce que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé la dernière fois. Ce petit côté, ce petit reste qui est à côté d'eux, ils font partie des chrétiens nés des apôtres. Donc il y a des chrétiens nés des apôtres, qu'on appelle l'Église catholique apostolique. Donc c'est un petit nombre de personnes, mais qui souffrent, qui sont persécutées à cause de la vérité qu'ils disent. Donc ils sont à l'écart. Ce sont d'eux que je publie les messages. Les messages que je publie sur le site viennent de ces personnes-là. Mais qui sont nés de nouveau, qui sont différents, ils sont plus de la Première Nation, voyez-vous. Ils sont de la deuxième, puisqu'ils reçoivent du ciel les messages du ciel. Les messages du ciel ne viennent pas de Vatican. Les messages que je publie, vous entendez, et Marie, je sais pas, ça ne vient pas de Vatican, mais vient de ce petit reste-là, apostolique. C'est ça la différence, frère, c'est ça. Mais pourquoi vous ne voulez pas me comprendre, mes amis? L'outil will make o balabani. Demei soe sakazonzo. Comprenez, quoi, frères et sœurs. Hein? Et puis vous avez la deuxième nation de sang. C'est dit la race en question. C'est la race noire. Donc vous avez la blanche et la noire. La blanche, c'est celle qui est convertie. C'est celle qui a pris les affaires du Christ. Et c'est au milieu d'eux qu'il y a eu les premiers chrétiens, peut-être de la diaspora. C'est au milieu d'eux qu'est née l'Église catholique apostolique. Les premiers chrétiens, c'était les disciples du Christ, c'était les Noirs. Oui, c'est les Noirs les premiers chrétiens. Hein? Ce sont eux qui le Christ les a envoyés au milieu des Blancs là-bas. Hein? Il dit, allez-y dans les nations. Les nations, c'est d'abord concerne d'abord Rome. Il dit, allez-y apprendre ce que vous avez appris de moi aux autres. Donc, c'est là où il s'exile. Il sait que, mais dans l'histoire,
ses descendants, sa famille va l'abandonner définitivement. C'est l'histoire des Noirs aujourd'hui. Hein? C'est l'histoire des Noirs aujourd'hui. Mais vous voyez que cette race-là de pharisiens, noirs cette fois-ci, hein, de sang, mais ils vont se retrouver aussi. Ils sont aussi nombreux à Le Zolo. À Le Zolo aussi, il y a des pharisiens. Les présidents de section et de sous-section. Regardez leur comportement. Regardez comment ils font. C'est aussi des pharisiens. Mais ils seront tous liés à un centre commun. Le centre commun, c'est Rome. Ce qu'on appelle Babylone la Grande, si vous voulez. Hein? Je te répète, tous ces termes-là, c'est pour vous montrer un pouvoir, n'est-ce pas? Mais qui vient de la Première Nation. C'est pour vous montrer que c'est Satan en personne qui tenait cette Première Nation au temps de Jésus. C'est Satan en personne qui tenait la Première Nation. Mais à la fin aussi. Donc de la Première Nation, il agira sur le monde entier. Donc, d'où la petite corde, vous voyez ici. Hein? Cette petite corde va soumettre des nations, des langues, des rois. Elle va d'abord partir de ce qu'on appelle l'argent, les finances. Ils vont prendre le contrôle des finances. Donc ça viendra aussi d'un petit pays qui contrôle la monnaie, la finance, etc. C'est un petit pays sur une île, n'est-ce pas? Hein? Et après avoir gagné l'argent, il viendra gagner la politique et après la religion, le spirituel. Oui, il fera tomber la politique. Et il fera tomber ce qui est spirituel. Et là, tous seront à sa merci. Vous voyez, oui. Mais c'est une petite corde. Donc, quand on parle de petite corde, c'est symboliquement un groupe de personnes. Vous voyez, mais qui ont le pouvoir sur le monde entier. C'est un groupe de personnes, minuscules. Vous voyez, lorsque vous voyez dans la pyramide, il y a un sommet. Ouais, c'est ça la petite corde. C'est ce qui est au sommet, avec un œil qui voit partout. Donc c'est un petit groupe de personnes au sommet qui ont un œil qui voit partout dans le monde. C'est eux qui vont assujettir le monde entier. Donc c'est eux qui vont rentrer dans toutes les religions, partout, dans la politique, tout. Donc les religieux, les politiques, les économistes, les financiers, tous ils vont être unis. Qui va les unir? Satan. Vous voyez? Cette petite corde va les unir. Donc, ils vont tous protéger les intérêts communs, défendre les intérêts communs, parler d'une même langue et être unis à un seul pouvoir. C'est celui, mais de la petite corde. Dans la petite corde, je répète, elle viendra d'abord d'une petite nation. Elle finira aussi par une petite nation. Hein? C'est un petit pays, un petit espace. Mais ce petit pays est puissant parce qu'il a tout le pouvoir de Satan. Dit, Satan leur donnera son règne et sa puissance. Mais Satan ne va pas venir s'asseoir n'importe où. Il viendra s'asseoir au siège de la première nation. Donc il s'assiera là pour commander le monde entier. Et la petite corde en question, vous voyez ici. Je n'ai pas dit que c'est l'Église catholique, hein? Non. Je n'ai pas dit non plus que c'est sans les cardinaux, les évêques. Non. Mais c'est le pouvoir satanique. C'est Satan qui viendra rentrer dans l'Église après avoir fait tomber les nations, les rois, etc. Comment il les fera tomber? Parce qu'il prendra en main les finances. Il prendra en main l'économie, la politique. Et enfin, la religion. C'est ce qu'il fait là, il est dans la religion. Il est installé. Si vous n'obéissez pas, on vous coupe les vivres. Hein? Quand vous entendez Tossa Olia, hein? Des termes comme ça. Tossa Polia, je ne sais pas, des termes comme ça. Mais ça vient de qui? Mais de Satan. Obéis, soumets-toi pour manger. C'est ça. Donc, qui a pris le pouvoir politique, économique, Elle se tord entre ses mains. Mais c'est Satan. Et qu'est-ce qu'il veut? Que les peuples lui obéissent, lui soient soumis. D'où la marque de la bête qu'on va voir. Hein? Donc voilà la première nation, mes frères et sœurs. C'est ce que je voulais dire la dernière fois. Hein? La première nation qui continue aujourd'hui, c'est l'Église catholique romaine. J'ai bien précisé romaine, parce que c'est eux qui sont témoins là. Hein? C'est eux qui ont les détails, qui ont vu comment est-ce que le Seigneur a été crucifié. Et c'est le pouvoir de Rome qui a pillé le temple en 70. Et ce temple-là, c'est le temple de la première nation. Donc c'est eux qui ont tout ça, n'est-ce pas? Hein? Et vous faites ça. D'où c'est la première nation. Mais elle va aussi, cette première nation, elle va se multiplier sur toute la terre. Voyez-vous? Il va se lever aussi, cette première nation, mais au milieu du peuple que Dieu va choisir à la fin. Les œuvres que vous voyez à le Zolo, là, actuellement, je vais être clair, hein, que vous voyez à le Zolo actuellement, ce sont des œuvres de la première nation. Quelles étaient les œuvres de la première nation, mes bien-aimés? C'était rejeter le Christ. Ils ont rejeté le Christ par tous les moyens, jusqu'à le crucifier. Vous ne voyez pas la même chose là? Alors, qui sont-ils alors, ceux qui dirigent là cela? Voyez-vous que c'est la continuité de la première nation. Mais quel est le pouvoir qui les dirige, si vous cherchez? Ils sont alliés à quel pouvoir? Ne vous leurrez pas, hein, ils ne sont pas avec le grand maître. Hein. Non, ils ne peuvent pas être avec le grand maître. Si vous les voyez faire ce qu'ils font là, mais ils sont bien liés aux maisons mystiques. Et plus particulièrement à quoi? Mais à la franc-maçonnerie. Mais toutes ces maisons mystiques viennent d'où? Vous m'avez posé la question. Mais de Rome. Où est le centre de tout ça? Le centre spirituel. Ne cherchez pas midi à 14h. C'est le centre où? De Rome. Rome actuellement, on l'appelle Rome. Actuellement, le Romain actuel, c'est l'Union Européenne. L'Union Européenne a deux capitales. Il y a une capitale politique. On sait très bien que c'est Bruxelles. Hein? Mais il y a aussi une capitale religieuse, spirituelle, c'est Rome. Où tout est concentré. C'est que Daniel a vu cette petite corne qui va prendre le pouvoir. Cette petite corne va venir de Rome. Plus particulièrement de Vatican, hein? Excusez-moi d'être clair. Hein? Et donc, va naître. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui sortira au Vatican. Un pouvoir qui va être différent d'autres pouvoirs. Parce que celui qui sera à la tête de ce pouvoir, c'est lui-même l'Antichrist. Donc, il sortira de là. Il peut que sortir de la première nation. Puisque le Christ, c'est la deuxième. Donc, l'Anti ne peut venir que de la première. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Les œuvres que vous voyez à l'Ozolo actuellement, ce sont les œuvres de la Première Nation. Donc, ça vient de qui, si vous avez suivi? Et de la Première Nation. Ceux qui ont pris la Première Nation aujourd'hui, ce sont ceux qui colonisaient le peuple juif au temps de Jésus. Bon, qui colonise aujourd'hui? Regardez ma télé de la City. Vous voyez pas que c'est la même situation? Bon, bref. Sur ce, je crois que je vais m'arrêter. Vous avez bien compris, mes bien-aimés, cette histoire de la première nation, vous voyez. Il faut que la première nation existe jusqu'à la fin. C'est ce que le Christ dit, cette génération-là. Ne passera pas avant que les... Donc, le Christ fera que la génération, la première génération existe jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'elle soit brûlée, n'est-ce pas, ici. Hein? C'est d'elle qu'on parle lorsqu'on parle de Babylone la Grande, la mère des prostituées. C'est elle. Mais au début, vous voyez, Babylone la Grande, c'est une organisation, vous voyez, qui va agir dans l'ombre. Qui sera à l'origine des assassinats, des coups d'État, de l'extermination des peuples, des nations. Ils vont s'arranger à tuer les Adamiques, partout où ils sont, pour prendre le pouvoir dans le monde entier. Ce sont eux qui sont à l'origine des guerres, etc. Vous voyez? Jusqu'à ce que ils prennent du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Lorsqu'ils auront suffisamment de pouvoir, eh ben, ils vont prendre ce qui est religieux.
Mais où symboliquement vont-ils se manifester? Mais à Rome. Ils vont prendre la papauté. La petite corde, c'est la papauté à la fin. Papauté. La petite corde, je répète, c'est la papauté à la fin. Et cette papauté sera ravie par Babylone la Grande ici. Babylone la Grande, c'est tout ce système-là, hein, où il y a les maçons, les rose-croix, les machins, les gens qui sont là, qui sont avides du sang, qui mangent la chair humaine, qui détruisent le monde. Oui, tout cela, c'est une organisation des gens qui sont contre Dieu. Vous voyez, c'est eux, hein. Vous voyez, qui vont d'abord évoluer dans l'ambre, hein, dans les obédiences, dans les machins, dans les sectes, jusqu'à ce qu'ils vont se manifester. Réellement, en une seule religion et un seul gouvernement. Ce qu'on appelle le Nouvel Ordre Mondial, par exemple. Hein. Vous voyez bien, c'est une organisation de Satan. Mais cette organisation va venir de la Première Nation. Elle doit sortir de la Première Nation. Donc elle prendra à la fin la papauté. Elle va soumettre la papauté. Elle va dégager. Vous avez déjà vu son œuvre. Il a dégagé un pape. Il en a mis un. Vous voyez que ça va continuer. Jusqu'à ce que celui qui va prendre la tête de l'Église ne soit même pas un spirituel. Oui. C'est Satan lui-même qui viendra prendre la place. Celui qu'on appelle l'Antichrist. Il viendra s'asseoir où, comme dit la Bible? Mais dans le lieu saint. Le lieu saint, symboliquement, c'est lequel? Vous voyez ici, lorsqu'on parle du lieu saint, eh bien, on fait allusion au temple. Donc, mais le temple en question, il est où? Hein? Et de quel temple s'agit-il? Vous voyez, vous devez vous poser la question dans l'Apocalypse. Le temple, c'est lequel? Hein? Hein? Celui qui va venir s'asseoir dans le temple. Donc il faut quand même que le temple, il faut que vous puissiez voir ce temple-là. Hein? Donc ce temple-là existe. Ce temple-là existe. Et donc il y a bien quelqu'un qui viendra s'asseoir dans ce temple-là, qui va prendre la place de Dieu. Vous voyez que ça a commencé avec la papauté, petit à petit. Jusqu'à ce que un pape d'origine inconnue vienne s'asseoir là. Oui. C'est celui-là qu'on va appeler plus tard, je ne sais pas, la bête, etc., le faux prophète. Donc ça se joue que sur deux nations. Hein? C'est-à-dire que l'histoire de Dieu à la fin, c'est sur deux peuples, si vous voulez, ou deux. Il y a les Romains et puis il y a Israël. Il y a les Romains, je répète, et puis Israël. Et Israël en question, c'est laquelle? C'est pas celle-là qui est là, hein? Celle-là qui est là, c'est l'Israël des convertis. Mais Israël, réellement, c'est le peuple de Dieu qui est destitué aujourd'hui, qui n'a plus d'histoire, et qui est éparpillé dans le monde entier, qui est la risée de tous les peuples aujourd'hui. C'est le peuple noir, hein? C'est le peuple noir. Donc ça va se jouer là. L'histoire de Dieu va se jouer sur les deux facettes. C'est tout, hein? Si les deux facettes. Je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup parlé. Donc j'ai parlé aussi de la petite corde, ça c'est fait. Et la petite corde, c'est celle-là qui agit, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Hein? Je vais en reparler quand je vais parler de la marque de la bête. Hein, vous avez dit le Christ était marié. Avait-il des enfants? Oh, frères et sœurs, vraiment. Moi, je ne comprends pas ça. Hein. Ça, si vous dites, quand vous le dites là, que ça vient du maître, c'est le maître qui l'a dit à Maman Tchela, etc., etc., c'est qu'encore une fois, vous ne respectez pas le grand maître. C'est que vous êtes là pour détruire sa mission. Ça, franchement. Hein. Ça, on peut faire toute chose. Mais arriver jusque là, dire des choses comme ça, c'est quand même grave et c'est méchant pour des gens qui se disent des croyants, quoi. Mais ce que vous faites là, c'est méchant. C'est vraiment méchant, frères et sœurs. Parce que vous ne respectez pas le Dieu des mille, celui qui lui a confié la mission. Vous ne le respectez pas. Pourquoi vous ne le respectez pas? Parce que vous niez sa divinité. Vous niez que le Christ est effectivement Dieu. Mais le Christ n'est pas homme. Lorsque vous le réduisez au mariage, ou à avoir des enfants, lorsque vous parlez de mariage, où le Christ a eu des enfants et tout, c'est que vous le réduisez à qui? À un homme. C'est que vous niez quoi? La divinité, bon sang. Vous niez la divinité du Christ en avançant ce que vous dites. Et quelles sont les conséquences par rapport à la mission d'un Émile Donné? C'est que vous détruisez complètement la mission. Vous faites dire qu'Émile est menteur. Vous faites dire autrement qu'Émile est un faux. Comment on appelait ça? Faux Messie? Enfin, il y a un terme. Faux Christ. Hein? C'est que pour vous, la mission de l'Émile Donné n'est pas du Christ, de Dieu. C'est que le Christ n'est pas Dieu. Mais on peut en déduire. C'est-à-dire que vous voyez à quel point vous êtes arrivé trop loin, n'est-ce pas? Et il faut savoir s'arrêter, mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Vous devez savoir vous arrêter. Faites très attention à ce que vous dites, mes bien-aimés. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Regardez, mes bien-aimés. Le Christ, je reviendrai, hein, je parlerai du Christ avec les prédications, la Pâque et tout. Vous allez bien comprendre qui est-il. Voyez-vous ici le Christ. On dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Le Christ, il dit qu'il est la parole de Dieu. Donc il est Dieu parfaitement. Et on l'appelle le Christ l'agneau. L'agneau de Dieu. C'est un agneau. Sans tache. Frères et sœurs, quand même, la parole de Dieu dit que le Christ était un agneau sans tache qu'il fallait offrir en sacrifice. Voyez-vous un agneau, moi n'y a même, hein, le petit d'une brebis. Ce n'est qu'un petit enfant. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est qu'un nourrisson. L'agneau, hein. Oh. Donc un agneau va se reproduire vraiment. Mais pourquoi? Pourquoi le Christ va se reproduire? Pour avoir quoi? S'il se reproduit, c'est qu'il a failli à sa mission. La mission est qu'il reste pur, saint, sans tache. Et agneau, vous voyez? Agneau. Donc il y a encore là, ce qu'on appelle, comment on dit ça en langue, en français, là? L'innocence, quoi. C'est un jeune, vous voyez? Un petit. Qui est sacrifié? Qui encore? Vous savez pourquoi on offrait un agneau sans tache pour les sacrifices à Dieu? Ce que ça représente? Mais si vous avez compris ça, vous n'allez pas quand même dire que le Christ, il s'est marié. Et pire encore, vous dites avec Marie-Madeleine, ils ont eu deux enfants. Mais non! Ça, c'est un pur mensonge. Si vous dites ça, c'est que vous annulez le sacrifice suprême du Christ sur la croix. Ce sacrifice-là n'est possible que si le Christ est entier. Or, avoir des enfants, c'est se multiplier. Donc, le sacrifice n'a plus de sens si le Christ se multiplie. Le sacrifice n'a plus de sens si le Christ passe par le péché de la chair, qui est autorisé à tout homme. Mais il ne l'est pas, c'est Dieu. C'est le Créateur. A-t-il besoin de ça, vraiment? Mais non! Et puis parler du mariage avec Marie-Madeleine, c'est faux! Complètement faux! Voilà comment vous détruisez. C'est-à-dire que, je sais d'où ça vient, ces théories-là. Mais faites attention, frères et sœurs. Faites très attention. Prenez la Bible, lisez, dans Exode 46, verset 13, par exemple. On vous dit, chaque jour, on fera au Seigneur le sacrifice complet d'un agneau d'un an. Agneau d'un an. Un an.
Imaginez, un enfant d'un an se reproduire. Quoique le Christ avait un corps, il était grand, machin, machin. Mais à l'intérieur de lui, hein? C'était un enfant. Laissez venir à moi les enfants, car les royaumes de cieux est à eux. Qu'est-ce que ça représente un enfant? L'innocence. Voyez-vous ici, hein? Donc, c'est pas un pécheur. Ce n'est pas un pécheur. Cet acte-là, elle a été autorisée. Il a été autorisé au pécheur. L'acte de sexuel et tout. Au pécheur, n'est-ce pas? Pour se reproduire. Mais lui, c'est un nouvel Adam. Hein? Il vient ici pour des choses plus grandes. Hein? Vous allez comprendre quand même, frères et sœurs. Et puis lisez dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été crucifié. Notre agneau pascal, hein? Ici, là, frères et sœurs. Non! Voyez-vous ici, 1 Pierre 1, verset 19, vous dit, non, vous avez été délivré par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. C'est écrit là, 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 là. Lisez la Bible, frères et sœurs. Mais ne vous laissez pas emporter. Moi, ça me donne la chair de poule. Ça me fait peur quand les gens y parlent de ça. Et encore, on ment au nom du maître. Ah, c'est le maître qui l'a dit à Maman Tchela. Mais non, c'est pas possible. Mais ce n'est pas possible, hein? C'est comme ce que les gens disent là. Le maître a dit que c'est lui qui a créé Adam et Ève. Ils ont même mis un extrait là sur YouTube là. Machin. J'ai été écouté. J'ai beaucoup rigolé. Parce que je sais comment le maître parle. Et je sais de quoi il parlait. Mais il arrive des fois qu'il parle à la place de Dieu. C'est notre façon de parler. Dans la tradition, hein. Congo. Mais même aujourd'hui, il y a des pasteurs qui parlent, n'est-ce pas? À la place de Dieu. Moi, Dieu, je ferai ceci pour vous. J'ai entendu des pasteurs dire ça. Moi, Dieu, là, 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 là. Moi, le Christ, là, là, là. Aimez-vous les uns les autres, c'est moi le Christ qui le dit, etc. Mais est-ce que c'est lui, il est le Christ? Non, il est le porte-parole du Christ. Donc, il peut parler à la place du Christ. Même Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui, Jésus. Il peut parler à la place de Jésus. Comme le maître peut parler, n'est-ce pas? À la place de Dieu. Hein? Mais il faut voir le contexte, pourquoi il l'a dit. Pourquoi? Lorsqu'on vous prenez une partie de ce que le maître a dit, et que à la suite, on commence à comprendre ce qu'il dit, vous coupez. C'est quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas. Quel esprit tordu peut faire des choses comme ça? Mununzambi, Mutusalaka. Mununzambi. Parfois, il dit, hein? Nimunu, Jésus, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pesaka, mission. Là, il a dit à le maître, Nimunu, Jésus. Il dit, c'est moi, Jésus, à qui on a donné la mission. Mais c'est une façon de parler, hein? On dirait, mais c'est lui, Jésus, non? Il a voulu dire Ninamounou. Mais il a utilisé une forme contractée. Ninamounou. Ninamounou. Il peut parler comme ça. C'est une façon. Mais on comprend la suite quand il dit Ninamounou Jésus Pesaka. Mais on comprend la suite de ce qu'il veut dire pour comprendre ce qu'il a dit au commencement. Mais il faut aller à la suite parce que c'est sa façon de parler. Il a une méthode. C'est tout un art, voyez-vous. Et comprendre ce que le maître dit, c'est tout un art. Il faut être rodé, comment on appelle ça, formé. Et cette formation-là ne vient pas d'homme, c'est une formation d'esprit. C'est l'esprit qui te parle. Donc, le maître explique la création, certes. Il explique la création, comment ça s'est passé, mais en se mettant à la place du créateur. Et puis après, il s'explique. Et les gens, en écoutant juste ça, ils se posent pas des questions. Ah, mais non, mais
Non, c'est parti. Ah, il a dit, c'est lui qui a créé Adam et Ève. Il a dit, oh là là. Il a même dit que c'est lui qui a écrit la Bible avec son index, je sais pas. Oh! Et on voit même un gros calaca montrer du doigt, tout ça. Oh, mais c'est quoi ce cinéma, frères et sœurs? C'est quoi ça? Hein? Est-ce que c'est ça vraiment, les vérités divines, c'est ça? C'est ça vraiment, les vérités divines? Les vérités divines, c'est ceci. Il dit, Dieu le Père est venu me chercher. Et ensemble, nous avons descendu. Nous avons pris une sorte d'escalier. On est allé en bas, au fin fond de la terre. Dieu le Père était devant, moi derrière. Il chantait. Ça, c'est les vérités divines. Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne dites pas qu'il y avait quelqu'un? Ça, c'est officiel. C'est des choses que le maître veut qu'on puisse dire. C'est ça, ce qu'il a dit officiellement, ce qu'il a envoyé au peuple de Dieu officiellement, c'est ce qu'il veut qu'on puisse dire. Mais il y a des détails qu'on a. Nous aussi, on a des détails, des trucs. Mais qu'on peut pas dire pour l'instant, parce que ça, c'est privé. Ça, c'est privé. Tel que je connais mon maître. Mais non, hein? Ça, c'est un message privé que vous avez mis là. Hein? Et je sais pas. Et puis, tout le monde est là. Mais non, c'est pas ça dans la logique. Hein? C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ah, hein, bien-aimé. Il faut pas, non. Il faut prendre ce que le maître a donné officiellement. Et même officiellement, il n'a pas voulu dire qui il est. Mais il a donné des indices. Hein? Il a dit... Depuis que Dieu m'a créé, jusqu'à ce que Dieu m'a créé. Je vous dis, hein, Dieu vient en personne me voir. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir ce traitement-là. Hein. Il n'y a qu'une seule. Je viens de vous expliquer de la Pâque. Ce n'est pas facile de trouver cette personne-là. Qui est-il, hein? Et quand il dit, mon sang qui a coulé contribue. Donc s'il y a contribution, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait avant. Qui a fait avant? Mais c'est Dieu. Et lui, il vient contribuer. Pourquoi contribue-t-il? Il explique. Pour le bonheur de l'humanité tout entière. Donc l'humanité est liée à lui. Point. Voilà comment on comprend les choses, simplement. Mais on ne va pas chercher là, midi à 14h, juste pour démontrer qu'Émile, c'est le créateur de l'univers. Mais non. Trois fois non. Hein? D'où votre question là? Le Christ et le j'aime. Mais non. Le Christ, c'est Dieu créateur. Donc lui, il peut pas se mettre à la place du créateur. Il dit bien, c'est Jésus qui m'a confié sa mission. C'est Dieu m'a confié là. Donc, Jésus en question est Dieu pour lui pleinement. Jésus en question est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Point. Lui ne rentre pas dans ce registre-là. Si vous voulez que la mission d'Émile s'arrête, c'est ça. C'est désobéir à tout. Mais à la Trinité. La Trinité, ils sont trois. Et lui, il dit bien, je suis la quatrième personne. Point. Oh, mais non, il n'a pas voulu dire ceci. Mais non. La Trinité reste la Trinité. Ça, on ne touche pas. On ne rentre pas dedans. Et on nous dit dans la Bible qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel nous avons la rémission de péché, que nous devons prier. C'est le nom du Christ. Point. Le maître respecte cela. Et dans toutes ses prières, il finit par « Que cela soit ainsi, Mukumbuyayis, au nom de Jésus. » Parce que c'est écrit dans la Bible. Et la Bible, jusqu'à preuve de contraire, est notre livre de chevet. C'est la Bible que nous respectons cette parole jusqu'à la fin. Mais les vérités divines de l'heure ne viennent pas annuler la Bible. Mais elle est une continuité. Et elles sont étroitement liées à la Bible. Parce que c'est Dieu. Et il est toujours présent, Dieu. C'est nous qui mourons. Mais Dieu est toujours le même. Dans ce qu'il a dit hier, c'est le même aujourd'hui. Dans le fond, c'est la même chose, parce qu'il parle à l'homme. Mais il peut parler à l'homme de l'Antiquité. Selon ce que l'homme fait à l'Antiquité. Il a dû faire des choses. Et Dieu parle par rapport à ça. Mais dans le fond, c'est la même chose. C'est le même mal. Mais qui se déguise, qui se transforme. C'est le même mal qui est sous plusieurs formes aujourd'hui. Et donc, il faut aussi qu'il parle à cette génération-là. Mais par rapport au mal qu'il fait. Et c'est parce que cette génération ne voit pas ce mal. Qu'elle fait. Donc, il doit lui parler. Et il doit lui parler aussi des choses à venir.
l'Ancien Testament, jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, nous sommes dans l'Apocalypse. Comme nous sommes dans l'Apocalypse. Mais il faut que Dieu nous dise ce qui va venir après. L'Apocalypse, c'est les événements actuels que nous sommes en train de vivre là. Mais après ça, il faut que Dieu nous dise la suite. Mais tout est toujours lié à son plan. Et son plan part du commencement. Comment est-ce qu'on peut comprendre ses plans de la fin si on ne connaît pas ses plans du commencement? D'où il faut connaître la Bible. C'est ce que le maître nous dit. On lit la Bible, lorsqu'on parle des vérités divines de l'heure, mais il faut aller dans la Bible. N'est-ce pas? La Bible, elle est là. Elle dit, ah, ça s'est passé comme ça au temps d'Israël. Mais maintenant, voilà. C'est pour montrer toujours cette suite. Une suite, mais toujours cette relation entre la parole d'aujourd'hui et d'hier. Tout est lié, intimement lié. Parce que ça forme le corps du Christ, tout ça. Du début jusqu'à la fin. Hein? Et vous? Alors, pour le mariage de... Donc, vous voyez que le Christ ne s'est pas marié, c'est faux. Le Christ n'a pas eu d'enfant, c'est faux. Sinon, il n'y aurait pas ce sacrifice suprême. N'est-ce pas? Il fallait qu'il se donne entièrement. Vous voyez? Le corps, âme, esprit, entièrement pour délivrer l'humanité. Donc, il fallait... Pour ça, il ne fallait pas qu'il se multiplie. Vous voyez, frères et sœurs? Où on parle du mariage du Christ? Bon, on va vous attraper maintenant, hein? Voyez-vous que le Christ se marie. Où? Mais dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on vous parle des noces de l'agneau. Donc Dieu vous a attrapé en flagrant délit. Vous qui dites qu'il s'est marié. Non. Vous voyez que son mariage, c'est à la fin. Apocalypse 19 oblige. Verset 7, je crois. Les noces de l'agneau. On va quand même lire ce passage-là. C'est intéressant. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, et soyons heureux. Rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé, et son épouse s'est préparée. On lui a donné un vêtement fait d'un fin tissu de lin, brillant et pur. Le tissu de lin représente les actions justes du peuple de Dieu. Voyez-vous ici les noces. C'est qui l'épouse de Jésus? Voyez comment vous réduisez Jésus à un homme. Ah, marié avec Marie-Madeleine. Voyez-vous, l'épouse de Jésus, si c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu entier. Et encore plus loin, vous voyez que l'épouse de Jésus, c'est la nouvelle Jérusalem, le Seigneur des cieux. C'est plus grandiose, plus grand que ce que vous croyez, que ce que vous racontez. Voyez comment vous réduisez le Christ à un simple homme. Et vous minimisez, voire vous annulez son sacrifice suprême sur la croix. Et bientôt, vous allez même dire qu'il était mort, on a retrouvé son tombeau. Cette théorie-là, que le Christ a eu des enfants avec, c'est faux, archi-faux. En lisant la Bible, si vous êtes vraiment, vous lisez la Bible, vous allez dire non, c'est pas bon. Parce que ça annule le sacrifice suprême de Jésus sur la croix. Point. Et vous allez me dire, ah oui, mais en fait, tout ça, c'est pour dire quoi? Ils ont dit tout ça pourquoi? Eh bien, pour remplacer Jésus par Guillemille. C'est tellement simple, hein? Ces gens-là, ils ont des laboratoires. Ils sont tendres, hein? C'est des enfants des ténèbres, hein? Il faut que vous appreniez à les connaître. Ils sont tendres pour détourner ces choses-là. Dans leur plan, c'est remplacer Dieu par un homme. Donc, ils vont commencer par remplacer Dieu par Émile. Ce sont des débuts. Vous allez vous habituer à considérer un homme comme Dieu jusqu'à ce qu'un véritable homme apparaisse et il va se prendre pour Jésus. Et vous serez tellement affaibli que vous allez accepter parce que vous avez déjà accepté. Le but, c'est quoi? C'est présenter l'Antichrist à la fin. Hein? Le but, c'est de présenter l'Antichrist parce que l'Antichrist, c'est un homme qui vient. Il va prendre la place du Christ. Donc, il faut petit à petit commencer à déifier, à diviniser les hommes de Dieu. Ça a commencé à l'Ozolo. Vous allez voir que ça va s'étendre. Dans l'Église catholique aussi, ça a déjà commencé. Mais c'est voilé. Personne ne vous dit que le pape a le rang de Dieu, puisqu'il pardonne les péchés. Mais c'est caché encore. Hein? Personne ne le sait. Personne ne connaît les attributs. Des attributions du pape. Qui est-il vraiment au sein de l'Église? Vous voyez qu'il occupe la place de Dieu. Et ça, c'est écrit. Hein?
Il reste que ça soit annoncé. Mais pourquoi il en fait? Pourquoi le pape a pris la place de Dieu? C'est parce que celui qui va venir là, celui qui va prendre le trône de Pierre, cet homme-là, il va se déclarer Dieu. Donc ce qu'ils vont faire, ils le font où? Mais à Luzolo. Pourquoi ils le font à Luzolo? Je vous ai expliqué. Et donc tout ça, c'est leur manigance, hein? Dire que Émile c'est Dieu, après c'est Émile c'est Jésus, tout ça c'est pour nous emmener à qui, à quoi, à quelle situation? Mais à l'apparition de l'Antéchrist, à nous faire accepter un homme qui va se déclarer Dieu. Mais le maître n'a pas dit ça. Sinon, ce serait faux, toute la mission serait fausse, puisque la mission a un patron, c'est le Christ. Et notre mission reste telle, c'est le Christ qui l'a confié, point. C'est la mission du Christ, point. Donc le Christ et Papa, c'est deux personnes distinctes. Une est Dieu et l'autre est la créature. Point. On ne discute pas avec ça. Et on ne badine pas avec ça. On ne mélange pas les pédales. Il y a Dieu et son serviteur. Il y a le maître de la vie, le Christ, et le grand maître de l'OPH. Le grand avocat du Christ. Celui que le Christ a nommé avocat. Il a dit, tu es le grand maître, l'avocat. C'est toi qui défendras l'humanité tout entière. Point. Je verrai l'humanité à travers toi. Si tu me dis oui, je prends. Si tu me dis non, je mets de côté. C'est tout. Le maître ne va jamais dire qu'il est Jésus. Ça, c'est vous qui l'inventez. Le maître ne va jamais dire qu'il est Dieu. C'est Dieu là, c'est Jésus. C'est vous qui l'inventez. Et encore lorsque vous dites, ah, son sang qui a coulé, sauve l'humanité tout entière. Oh. Mais avant de dire ça quand même, rappelez le sacrifice de celui qui lui a confié la mission. Donc il y a d'abord un premier sang qui a coulé, c'est celui du Créateur. Et celui qui vient de couler, c'est celui de son grand maître. C'est celui de celui à qui il a confié la mission. Donc il y a celui qui a la mission. Il y a celui qui confie la mission. Et il y a celui qui la reçoit. Donc celui qui a reçu la mission, mais a suivi les pas de celui qui lui a confié la mission, jusqu'à faire couler son sang à l'exemple de celui qui a confié la mission. Voilà la suite. Voilà que le sang qui a coulé en premier vient se mélanger avec celui qui a coulé en deuxième. Mais tout ça, ça a coulé pour la mission, pour la même mission. C'est la continuité de la mission. Donc, quelque part, ça se mélange les deux. Donc, il y a une contribution. Mais celui qui contribue, c'est qui? Mais c'est l'homme. Il contribue au sang de qui? Mais de Dieu. Et ainsi, les martyrs aussi vont contribuer. Ils ont contribué dans l'histoire, les martyrs, mais ils vont encore contribuer là. Donc, le sang qui va couler des chrétiens, qui coule, qui ont coulé au Moyen-Orient, qui va couler partout dans le monde, mais contribue aussi. Parce qu'ils sont morts pour défendre la vérité, pour la mission du Christ. Mais cela ne veut pas dire que ce sont des Christ. Il y a des martyrs, des gens qui ont donné leur sang. Mais celui-là, le sang là, de celui-là, est spécial parce que c'est... Voilà. Hein? C'est celui qui vient à la suite. Parce qu'il est ce qu'il est. Voilà. Hein? Il est celui-là du commencement. Voilà pourquoi c'est lié à l'humanité tout entière. Mais c'est une contribution. Le sang qui coule de Jésus contribue au salut de l'humanité tout entière. C'est pour le salut de l'humanité tout entière. Mais Émile dit bien, son sang vient contribuer à ce salut. Donc c'est une suite. Ah, voilà, ah, c'est la précision. Voilà mes gros calacas. J'ai beaucoup parlé là. Pour la marque de la bête, je voulais vous dire, pour terminer ici, hein, et je ferai... je reparlerai. Hein. Bon, ce ne serait pas une autre prédication. Je vais continuer cette prédication, mais je vais faire en deux parties. Hein. Cette partie-ci, je vais la finir en français, et puis je vais ouvrir un autre chapitre pour parler de
la marque de la bête. Bon, ou soit je ferai tout hein, sur une même partie, mais je crois que c'est mieux de séparer. Hein. Je séparerai et je parlerai de la deuxième partie après. Hein. Vous voyez que la marque de la bête, frères et sœurs, aujourd'hui, vous voyez le monde, dans quelle direction on va. Vous voyez, on va dans la direction de la prise de pouvoir de Satan, hein, de ce personnage-là dont je vous ai parlé, de la petite corde, là, n'est-ce pas, et qui sortira, n'est-ce pas, pour gouverner le monde entier. Pour qu'il gouverne le monde entier, il faut que le monde entier soit soumis. N'est-ce pas? Or, il sait que la soumission ne peut venir que s'il détruit les religions. Bon, les religions, c'est bien après. Hein? Donc, il va commencer à détruire d'abord l'économie. L'économie, une fois détruite, eh ben, les peuples seront affaiblis. Il va y avoir des bouleversements. Les nations vont entrer en guerre. Bref, il y aura une guerre. Et cette guerre-là aura des conséquences désastreuses. N'est-ce pas? Et vous savez, dans toute situation, lorsqu'il y a la guerre, eh bien, le peuple est désemparé. Et arrivent des problèmes multiples. La faim, etc. Vous voyez? Et une situation de guerre fragilise toujours. Excusez-moi, fragilise toujours. Ah, je suis enrhumé, hein, excusez-moi, mais je dois faire la prédication. Une situation de guerre fragilise toujours les peuples, les nations, les pays. Vous voyez ? Et c'est cette occasion-là que le diable veut saisir pour soumettre à les peuples. Parce que lorsque le peuple sera en guerre, tout ça à cause des problèmes économiques, etc., l'argent va manquer, etc. C'est voulu, tout ça, ce que vous voyez. Hein? C'est voulu, c'est planifié. C'est pas... c'est des crises que vous voyez. Ah, il n'y a plus d'argent, ah, on licencie les gens, ah, etc. C'est voulu, c'est un plan ourdi par la petite corde hein, dont on a parlé pour emmener les États à la ruine. Une fois que les États sont à la ruine, eh bien, il y aura des mouvements sociaux. Il y aura des guerres, etc. Hein? Et après ces guerres-là, vous voyez que le tissu social, les peuples sont fragilisés, n'est-ce pas? Ils ne savent plus sur quel sein se vouer. Et c'est à ce moment-là que cette petite corne apparaîtra, eh ben, pour assurer la paix, la sécurité, etc. N'est-ce pas? Elle viendra arrêter les guerres et promettre la paix. Et tout le monde va applaudir. Et après, elle va soumettre. Parce que là, vous avez perdu votre boulot, vous avez perdu vos acquis, vous avez tout perdu. Et là, y a des gens qui viennent comme des sauveurs, vous dire, mais tout va aller mieux et tout. Je crois que vous allez les suivre, vous allez les applaudir, parce qu'ils ont été pour la paix. Mais vous avez oublié que ce sont eux qui ont provoqué cette guerre. Et alors, ils vont vous dire, si vous voulez vivre maintenant, vous devez vous soumettre. Vous devez avoir la marque de la bête. Mais là, je crois que même si vous êtes chrétien, croyant, je crois que là, vous êtes fragilisé, là. Vous sortez d'une situation catastrophique. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez accepter pour avoir du boulot, pour se soigner, pour manger, pour boire. Il faut cette marque-là. Vous allez accepter. Et ainsi, voilà comment il soumettra les peuples et les langues et les nations. Mais la première étape, c'est celle-là. Lorsque vous voyez la crise partout, c'est en préparation de l'apparition de cet être. Maléfique. C'est lui qui va causer ça. Pour soumettre le monde entier. N'est-ce pas? Donc il apparaîtra comme le sauveur du monde. Et ainsi, vous n'aurez plus le choix. Nous n'aurons plus le choix. Nous allons accepter sa marque de la bête. Cette marque de l'Apocalypse est une réalité. Elle est déjà là. Elle est déjà prête. Il ne reste que la grande guerre s'éclate. Que les nations soient bouleversées pour que, à la fin, que cette marque de la bête soit implantée à tout un chacun. Celui qui va refuser sera persécuté. Il n'aura pas droit à... Il sera moins que rien.
C'est pour ça que la Bible nous dit, faites attention, n'acceptez pas cette marque-là. Vous savez, vous voyez que ça va être dans les moments très difficiles. Mais vous ne pouvez refuser cette marque-là que si vous êtes aujourd'hui enraciné dans la vérité. Si vous êtes vraiment assis sur la vérité. Même s'il y a des guerres qui arrivent, même s'il y a des bouleversements qui arrivent, si vous êtes en Dieu, Dieu ne vous abandonnera. Point. Et si cette situation se présente devant vous, vous refuserez parce que vous aurez déjà confiance en Dieu. Vous l'avez cultivé avant que ces événements-là n'arrivent. D'où on demande au peuple de Dieu de revenir à la vérité. Donc nous allons vers la marque de la bête ici. Hein. J'en ai fini, mais je vais en parler en langue. Tout à l'heure, hein, la deuxième partie de la prédication. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était très lent, la prédication. Il fallait répondre aux questions, vous voyez ici, hein, de la première nation, hein, le Christ, Jésus et le J'aime. Donc la première nation, vous avez bien compris, hein, les œuvres de la première nation seront transportées, mais à Rome, chez les Romains, vous voyez. Et c'est les Romains qui prendront cette affaire-là avant que ça puisse revenir au peuple de Dieu. Vous voyez, c'est un passe-passe. Hein? C'est le peuple de Dieu qui l'avait, ça part chez les Romains, et puis ça va revenir chez le peuple de Dieu. Voilà, hein? Donc à la fin, vous verrez une guerre, n'est-ce pas? Les Romains vont livrer une guerre contre la nation où Dieu va venir. Hein? C'est ça que vous voyez là. Là. Actuellement, ce que vous voyez, c'est ça. La nation où Dieu est, elle sera combattue par les Romains. Donc ne cherchez pas midi à 14h. Qui est en train de persécuter ce peuple-là, autour-là? C'est les Romains, n'est-ce pas? Hein? Quelle est la puissance religieuse, la puissance spirituelle qui combat la lumière qui est au mont Caricari? Bon, il n'y a pas de difficulté pour savoir où est la corne. Et cette corne a une grande puissance. C'est la puissance que Satan lui a donnée, son trône. Hein? C'est ce que la Bible dit. Et c'est cette puissance-là qui attaque le peuple de Dieu. C'est comme au temps de Jésus, vous voyez. Pour remettre toute chose à la nation de Dieu, ben, il y aura une guerre, quoi. Hein? C'est cette guerre-là qui est dite dans la Bible, vous voyez. Et vous voyez que cette petite corne-là sera arrachée par qui? Par Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui fera le boulot. C'est Dieu qui arrachera cette petite corne et qui donnera le pouvoir, l'autorité au peuple de Dieu. Donc le peuple noir, avant de posséder ce qu'il a perdu, va passer par une grande souffrance. Cette souffrance a déjà commencé, elle a mûri, elle va atteindre son paroxysme. Et puis après, ce serait fini par la manifestation du Christ. C'est le Christ qui vient à mettre fin à la souffrance de ce peuple. Vous voyez? Et alors, Rome et Vatican... Rome sera brûlée, hein? C'est arraché, quoi. Mais je vous dis que la petite corne c'est le pouvoir de Satan, hein? C'est une minorité qui tient ça. C'est une minorité. C'est des Illuminati, on les appelle, je ne sais plus quoi, là, hein, des termes comme ça. C'est des gens qui ont le pouvoir, qui ont une relation directe avec Satan en personne, qui ont le pouvoir. Ils vont prendre le pouvoir économique, etc. Et la fin, c'est le pouvoir religieux. Donc, ils vont se manifester à Rome, spécialement. Vatican, ce sera le siège. Donc, ils voudront prendre cette première nation-là, hein, pour asseoir leur pouvoir. Et alors, il y aura le schisme, alors il y aura la division. Mais comme je vous ai dit que la première nation est un fondement, hein, c'est sur ce fondement-là que Dieu viendra construire l'Église. Vous avez vu que l'Église, c'est autre chose. On peut pas mélanger les choses. Aujourd'hui, on a mélangé. On parle de l'Église. Non, l'Église, réellement, elle n'est pas encore là. Charnellement, physiquement, hein, mais elle est là spirituellement, oui. C'est le patron de l'Église, c'est le Christ à lui-même. Oui. Et cette Église-là est liée au temple. Et le temple est aussi dans le monde spirituel. Symboliquement, elle est à Caricari, le temple. Mais vous ne l'avez pas encore vu, hein? Parce qu'il est encore caché. Donc vous voyez, tous les chrétiens seront liés à ce temple-là. Hein? Ce temple-là est invisible. Il y a un temple qui est visible. C'est la première nation. Le temple qui est invisible, c'est la deuxième nation. Bon, bref. Et le Christ était marié. Non, hein? Pas du tout, hein? C'est faux, ça. Ça, c'est les paroles de l'Antichrist. La petite corne, j'en ai parlé. La marque de la bête, j'en ai parlé aussi.
Bien, je m'arrête ici. C'était toujours moi, votre homme, serviteur, papa, basse, basse, à la balle, et à la balle, et vous été fait vers le maudit, s'il y a été avalant, quand je vous gâtais, quand je vous gâtais, péter, à pika, péter, à télé, game, il faisait quoi, bon. Moté ma pembe, molangi pembe, à konzulu kate, anzulu kakanayete, tina souka mokiri, à pika, pende, na tatana ye, guille, mille loufois. C'était quoi, beau? C'était quoi, beau? C'était quoi, beau? La voix et la bouche autorisées dans l'organisation PH pendant les moments difficiles. On reconnaît les vrais amis pendant les moments difficiles. Si n'est pas balinga jamais équipé, mais sauver les rabbins dans la kékolo, ou toi, quoi, voilà. L'homme de Kibossi. Le fils bien-aimé de Papa Guillaume, il faut être quoi, beau? Le fils bien-aimé de Papa Guillaume, il faut être quoi, beau? Le fils bien-aimé de Papa Guillaume, il faut être quoi, beau? Portez-vous bien. Rendez-vous la prochaine fois pour parler des rameaux. Je vous remercie et je vais passer à la deuxième partie où je parlerai en langue pour la marque de la bête. Merci, 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 merci encore. Je vous félicite et je vous demande pardon d'avoir pris beaucoup de temps. Hein. Je vous ai pris beaucoup de temps. Certainement que vous devriez faire d'autres choses. Mais vous voyez, souffrez, acceptez. Bon, je demande pardon, hein, parce qu'il fallait dire toutes ces choses-là. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Dieu, merci. Tout au ndélé.